d'avoir des prix de compréhension des dernières mobilisations et aussi de comprendre les vécus des agriculteurs et agricultrices. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte que nous, il y a eu un très gros silence même de la part de l'université dans laquelle on est, où il y avait très peu d'échanges en fait sur les mobilisations. On trouvait ça assez étrange de pas du tout parler de ces mobilisations-là qui finalement nous concernent un peu toutes et tous. Voilà. Et donc pour cela, on a voulu donner la parole à celles et ceux que l'on voit parfois peu ou qui ne sont pas forcément représentés dans différents médias, en faisant justement ce moment d'échange et de réflexion aussi collective. Parce qu'on a aussi envie, voilà, que ça soit ouvert à tous et tous et qu'il y ait des questions qui soient posées à chaque étape de cette table dans le monde. Donc, du coup, on vous propose trois temps. Le premier temps consistera à avoir des retours d'expérience des agriculteurs et agricultrices qui sont ici. Un deuxième temps qui sera plutôt sur les retours des mobilisations, donc aussi à travers les agriculteurs et agricultrices qui sont ici présentes et présents. Et un troisième plutôt pour aborder les projections futures du milieu agricole. Ouais, donc c'est hyper ambitieux en fait. Franchement, je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder correctement, mais on va faire le maximum pour. Et donc, si vous souhaitez réagir, il y aura juste à lever la main à la fin de ces trois temps. À la fin de chaque temps, il y aura un moment dédié aux questions. Et il y aura juste à lever la main et ma camarade ici présente prendra le tour des paroles. Voilà. Et donc, ça semble peut-être un peu bête, mais on demande aussi à tout le monde de rester relativement bienveillant aussi envers l'ensemble des personnes qui prennent la parole et qui s'expriment pour faire un débat le plus constructif possible, on l'espère. Et voilà. Que dire d'autre? Ah si, aussi, on voulait juste savoir si peut-être plus agréable pour les agriculteurs et agricultrices qui vont répondre aux questions, même pour tout le monde ici, on voudrait juste savoir qui seront des étudiants à l'arrivée, qui seront des personnes retraitées, qui sont des personnes même où on ne sait rien. Ou je contacte juste aussi les personnes qui sont éloignées des questions agricoles. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout Ok. Et des personnes qui s'y connaissent, qui savent un petit peu grossièrement les mobilisations qu'il y a eu récemment, qui sont assez proches du débat. Je ne sais pas si c'est parti pour plus que...
On laisse connaître. On reprend qui est étudiant finalement dans la classe. Ça peut peut-être pas être trop grand. Il y a bien une grosse majorité d'étudiants du coup.
Étudiant agricole ou en agriculture
Qui est étudiant à Grosu.
Oui, c'est à moi de poser la question, en fait, la première. Pour commencer la table ronde. La première question.
C'est qui organise?
Ouais.
Voilà.
Oui. Ouais, c'est vrai que. c'est pas vraiment présenté. Mais, bon, du coup, c'est Clarisse, on est tous les deux en master 1 d'agroécologie à l'Institut Agro. Juste de vous poser de cette route-là. Voilà. Ça répond à la question.
Non, c'est moi qui suis.
Ok. Pour vous présenter, les activités que vous faites sur vos fermes. Je sais pas qui veut prendre la parole première.
Les jeunes femmes d'abord. Allez.
Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Manon Luchelet, je suis agricultrice en élevage ovin-viande dans le Nord Châtillonnais. Je suis installée depuis 2020 sur une exploitation, ce qu'on appelle orcade familiale, c'est-à-dire que c'était pas une ferme qui venait de mes parents, même si mes parents sont agriculteurs aussi, on va dire à 10 km d'où je suis. Et je fais de la vente directe, donc de la viande d'agneau et viande de mouton en bio.
Est-ce que tu pourrais juste développer un petit peu sur les difficultés auxquelles tu peux être confronté, mais aussi les joies que te procure ton métier et c'est pourquoi tu fais ça et...
Alors, moi, j'ai un cursus, j'avais fait une école d'ingénieur agro, comme étude, qui était formée plutôt sur le développement international, et puis après, j'ai décidé de travailler dans le milieu agricole, donc avec différents postes, et puis donc vers les 30 ans, j'ai décidé de m'installer. J'avais fait déjà, on va dire, d'autres postes avant de m'installer. Et la volonté de m'installer, c'était le lien avec la nature, les animaux. J'ai travaillé aussi par le passé en alpage et tout ça, donc c'était des sensations que je connaissais déjà, avec la nuance que quand c'est nos animaux, je pense que le lien est plus fort, il est construit, et puis après on peut donner aussi les orientations qu'on souhaite à notre élevage et tout ça. Donc c'était ça les motivations. Et puis la vente directe, c'était aussi le choix de faire une viande de qualité, montrer que c'est possible de consommer de la viande tout en la produisant correctement, en respectant le bien-être des animaux et des gens. Et en gros, moi, j'ai cette conviction-là qu'il y a une voie du milieu sur la production de la viande et j'essaye de l'incarner chaque jour dans mon travail.
Il y a des questions.
Oui, c'est en bio.
C'est que votre...
Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Delphine et je suis maraîchère au sud de Beaune, à peu près à 10 km en limite Saône-et-Loire. Et je suis associée avec mon mari, on s'est installé ensemble en 2021. On a aussi un peu de poules pondeuses, mais on est tout petit, on a qu'une centaine de poules, donc en fait c'est vraiment pas beaucoup, même si comme ça, ça fait beaucoup. On est en bio, on en fait du maraîchage sur sol vivant, alors je sais pas si ça parle un peu à quelqu'un, mais en gros, on passe pas la charrue ni le motoculteur, voilà. Et on ne travaille pas les sols et on met beaucoup de matière organique. Et du coup, on élève un peu les verres de terre. À la base, on n'est pas du tout du milieu agricole, on n'a pas fait d'études en agriculture. On a fait une école d'ingénieurs tous les deux en mécanique. Voilà. Et microtechnique, ça n'a rien à voir. Mais on a travaillé à peu près 6 ans et on s'est dit qu'il n'y avait plus assez d'agriculteurs. Si on attendait que les autres le fassent, on pouvait encore attendre longtemps. Donc on s'est dit, finalement, allez, on va le faire. Et pour le coup, on a dû refaire une formation agricole parce qu'on n'avait pas le droit d'exploiter des terres agricoles sans avoir de diplôme. Mais c'était intéressant, on a rencontré d'autres gens, il y a eu le confinement, donc ça s'est bien passé, on est bien. Et on a eu 3 hectares, donc il y a un côté où c'est plus facile à trouver que si on fait de l'élevage, parce que là, on a pu récupérer un pré qui était exploité par un céréalier en conventionnel avant, donc c'était un champ et il n'y avait rien du tout. Et nous, on est passé en bio, on a fait la conversion, etc. Donc, on a mis en place toutes les infrastructures qui allaient bien. Et on a eu de la chance parce qu'on habitait déjà sur la commune. Et donc, on avait un périmètre de recherche très restreint. Mais finalement, par le bouche à oreille, on a trouvé en 6 mois, ce qui est super court dans le monde agricole. Voilà. Après, nous, la problématique, c'est qu'on est toujours en installation parce que même si, tout le monde le dit, il faut 5 à 10 ans pour s'installer en agriculture, on ne croyait pas, on disait que c'était plus rapide que les autres. Donc, c'est quand même vachement long. On vient pas du monde de l'agriculture, donc dans nos métiers, c'est beaucoup dans l'instantané. Et la nature, c'est pas ça. Donc, il y a ce côté où, voilà, on est encore en installation, on n'est pas encore au plein potentiel de production de ce qu'on fait, et il y a ce côté un peu frustrant d'avoir une image de ce qu'on veut dans 15 ans, et puis bah, pour l'instant, on est dans notre rythme aujourd'hui. Ça se passe bien, on est super content. En 3 ans, on est parti d'un sol où il n'y avait rien. Et maintenant, on a des grenouilles, des crapauds, des oiseaux, des vers de terre, plein de petites bêtes qui volent partout. On a planté 2000 arbres, et puis, bon, on produit des légumes surtout. Et on les vend en direct à la ferme, 100% à la ferme. Donc, on a fait construire un bâtiment. Et on fait que de la vente à la ferme, où on revend aussi les produits de d'autres producteurs bio qui sont à moins de 50 km à vol d'oiseau. Et permet aux gens qui sont autour d'avoir accès à d'autres choses en venant. On est ouvert 3 fois par semaine, mais des gens qui font des plantes aromatiques, ils vont pas avoir un magasin à la ferme pour 3 fois par semaine. Donc ça permet d'avoir tout au même endroit. Et on fait une réduction pour les gens qui viennent à vélo parce qu'on est au bord d'une piste cyclable. Bon, voilà, c'est une culture super intéressante, on est très fiers de ça depuis le début. Mais c'est un petit peu, je dis ça parce que ça illustre un peu la globalité de ce qu'on fait, c'est-à-dire que en fait, nous, on est super contents de faire ça, c'est un métier incroyable. Enfin voilà, on a aussi des chiens, du chien, on vit avec nos animaux, tout ça. Mais en fait, on porte quand même, à titre personnel, un engagement qui devrait être plus sociétal. Parce que, bah, ok, on fait une réduction de vélo, c'est trop cool, les gens, ils viennent en vélo, ils sont contents, ils payent 5% moins. Mais en fait, on perd 5% de part. Voilà. On le fait parce qu'on est content, mais c'est un peu l'illustration du monde agricole et des gens qui essayent de faire des choses bien. Je trouve.
Une question? Non. Bonjour, donc moi je m'appelle Guy Paquet, alors moi je suis en fin de course. Je suis en retraite, je fais partie des retraités, hein, comme quoi il n'y a pas de mal à être retraité. Ça va faire 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant que j'ai remis la ferme à un jeune agriculteur. Alors je vais revenir sur le tout début, le mien. Moi je suis né dans une famille d'ouvriers, à côté de Mont-sur-les-Mines, en Saône-et-Loire. Mon père travaillait à la mine. Mais à 14 ans, pour moi il n'y avait pas d'autre choix que de devenir agriculteur. Alors allez, on parle beaucoup des NIMA aujourd'hui. Nous, à l'époque, c'était les non-fils d'agriculteurs, tout simplement. C'était pas très bien vu et surtout, ça paraissait totalement utopique. Mais il faut y croire et on y arrive. Et aujourd'hui, quand j'ai vu l'invitation, je me suis dit que je voulais venir parce que moi, je veux défendre le métier d'agriculteur. Et c'est bien que les jeunes montrent aussi qu'ils sont passionnés et qu'ils aiment ce qu'ils font. Car malheureusement, quand on voit à la télévision les manifestations, moi, j'arrive pas à accrocher à ça. C'est pas comme ça que je vois mon métier. Après, c'est normal. Défendre son revenu, on le fait tous. Il faut le faire. Mais voilà, le métier d'agriculteur a ses inconvénients, ses avantages. Et il faut essayer de tirer les avantages. Et puis, ma foi, pas trop, pas trop peiner devant les inconvénients. Donc, moi, à 14 ans, parce que l'école, c'était pas mon truc, ingénieur et tout, c'est très très bien. Mais c'était pas mon truc d'aller à l'école. Moi, je voulais être au cul des vaches, comme on dit vulgairement. Et à 14 ans, comme j'ai dit ça, les profs m'ont dit « va faire un BTS ou un machin, j'ai dit « yep ». Mes parents m'ont dit « t'y connais rien », ce qui était vrai, parce que je n'étais pas né dans une ferme. Mais ils ont eu la mauvaise idée de m'envoyer au 1er juillet 1975, je m'en rappellerai tout le temps, jusqu'à ce que je perde la mémoire. On m'a envoyé travailler dans une ferme, persuadé que je ne résisterais pas au travail physique que demandaient à l'époque les... Mais je crois que le mal était fait ou bien installé et ça a continué. Après, j'ai fait un BEP agricole. Après, il faut avoir un minimum de formation pour avoir droit aux aides. Dans mon idée, par rapport à aujourd'hui, les jeunes que je vois qui se confrontent vraiment au modèle dominant, moi, je voulais intégrer. Je voulais pas qu'on me marginalise. Je voulais rentrer dans le système. Et donc, j'ai fait une formation à Charolles en élevage parce que pour moi, c'était vivre à la campagne, travailler avec des animaux ou vivre avec des animaux et travailler à la campagne. Je sais toujours pas lequel j'ai choisi, mais je crois que j'ai choisi les deux. Et donc, voilà. Et donc, j'ai été apprenti pendant mes 2 années. Après, j'ai été ouvrier agricole, service militaire. Moi, je fais encore partie d'une génération qui prend le service militaire. Après, j'ai fait trois exploitations différentes. Et je m'étais toujours dit, à 25 ans, tu t'installes. Il faut y croire, il faut en avoir envie. Et je vois que les jeunes aussi ont toujours envie, et c'est très bien. Et alors, le problème, on va aussi parler des problèmes, le problème en élevage à l'étang, c'est que les exploitations trop souvent étaient déjà, à l'époque, c'était 90 hectares, maintenant on en est plus à 200, mais c'était déjà des fermes de 90 hectares qui, financièrement, demandaient un gros investissement. Et je savais déjà que financièrement, ça passerait pas pour des gens comme moi. Et donc, après avoir cherché et trouvé des petites exploitations dans le bassin minier aux alentours, en Saône-et-Loire, j'ai trouvé des petites exploitations qui étaient en fin de cessation, pas des gens qui faisaient faillite, des gens qui arrêtaient après avoir fait leur vie de travail, mais j'étais en concurrence avec d'autres agriculteurs qui, eux, en avaient besoin pour s'agrandir. Et donc, le tour a été vite fait, et c'est pour ça que je me suis un peu expatrié, entre guillemets. Je suis venu m'installer dans le Morvan, sur le territoire du parc naturel régional du Morvan. Derrière un couple d'agriculteurs, qui n'avaient pas de successeur, et qui avaient vraiment, parce que ça c'est important de dire, il faut que vraiment les agriculteurs aient envie d'installer des jeunes. Parce que s'ils veulent partir avec le maximum de pognon, ce qui, on va dire les gros mots, mais dans un monde capitaliste, c'est comme ça, hein, il faut des sous, ouais, parce qu'on sait bien que le monde coûte cher et tout ça. Donc si les agriculteurs avaient voulu, ils ont eu des propositions de gens qui pouvaient racheter toute la ferme, qui voulaient installer une fils pour en avoir encore plus grand et tout, mais eux, ils voulaient donner leur chance à un jeune. Et ma foi, je me suis trouvé à passer par là, à ce moment-là, et donc je me suis installé sur une ferme qui faisait, elle faisait 90 hectares, c'était pour moi une course. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu la proposition, je voulais la refuser parce que je me suis dit financièrement ça n'ira pas. Mais en fait, le moment, c'est pas le bassin minier, c'est quand même le plus pauvre et tout. Et donc, sous une ferme de 90 hectares au départ, j'en ai repris 70, ce qui était déjà pas une idée commune chez les pauvres, c'était plutôt l'agrandissement que le contraire. Et donc, une ferme mixte avec des bovins et des ovins. Et donc, moi, je suis parti comme ça avec mon épouse qui m'a suivi dans mon délire, on va dire, parce que je crois que c'est un peu ça au début. On part dans une envie, un besoin, et on y va. Enfin, on se rend pas toujours compte de toutes les difficultés qu'on va avoir à traverser, mais bon, on s'adapte et c'est une bonne chose. Et donc, elle m'a joint sur l'exploitation. Elle a fait une fac, elle est un peu plus intelligente que moi. Et voilà. Et donc, on a travaillé pendant 35 ans sur cette exploitation. Alors, là où j'ai des petites divergences, entre guillemets, moi, je suis resté dans le schéma classique. J'ai pas voulu passer en bio. Et je pense que, aujourd'hui, il faut que les gens aient un peu conscience. Je parle pas du bio. On est d'accord, c'est un cahier des charges, c'est des choses à respecter et tout ça. Mais dans l'agriculture, entre guillemets, conventionnelle, que tout le monde veut mettre dans le même panier, il y a des façons de faire qui peuvent être totalement l'opposé. Tout le monde connaît l'agriculture intensive, avec ses multiples traitements et tout ça. Quand vous vous installez dans le Morvan, les rendements à 80, 100 taux et plus en céréales, je parle, parce que je faisais aussi un peu de céréales, on n'y essaye pas. Hein. On comprend qu'avec les potentiels des sols, on va y bouffer sa chemise. Et donc, on s'adapte. La nature, dans le Morvan, elle a l'avantage d'être déjà présente. Les arbres, les bosquets, les haies nombreuses, on les arrache pas parce que la pente, parce que ci, parce que là, et puis le bois de chauffage, et puis tout un tas d'intérêts qu'on trouve. Et au niveau de la commercialisation, on suit les bovins. J'étais un peu pendoué. C'est-à-dire que je faisais du broutard pour l'export, hein, pour les Italiens, il n'y a pas photo. On pourra en parler peut-être si on rentre un peu dans les détails sur la problématique d'engraissement, sur la viande dans les régions qui ne sont pas toutes adaptées à l'engraissement, je crois. Pour les agneaux, par exemple, c'était tous fini. Alors, pareil, un exemple que je prends, c'est que j'avais visité une ferme du côté de Buxy. Avant, l'éleveur me disait, les agneaux, quand t'arrives le mois de mai, que la pousse de l'herbe est là, en quelques jours, il faut faire attention parce qu'ils deviennent trop gras. Et donc, après, la commercialisation est difficile et tout ça. Que dans le Morvan, vous pouvez laisser un agneau 3 ans dans le pré, avec que de l'herbe, il sera jamais gras et bon à tuer. Donc, ça, il faut le faire. Donc, j'élevais mes animaux à l'herbe, comme les lions, tout fait, avec les traitements, qui sont autorisés aussi en agriculture biologique, hein, pour les vermifuges et tout ça. Parce que c'est vrai que, moi, à mon époque, c'est vrai que ça a changé. À mon époque, c'était systématique. Si vous éleviez des animaux, il fallait que tous les mois, vous fassiez un vermifuge. Parce qu'il fallait surtout qu'ils aient une croissance la plus forte possible et tout ça. On s'aperçoit que les animaux acquièrent une certaine immunité, une certaine résistance aux parasites, à condition de leur laisser le temps. Et donc ça, on le fait. Moi, je l'ai appris sur le temps, on va dire quoi, en essayant et puis voilà. Enfin bon, pour la commercialisation, donc j'engraissais tous mes animaux. Et voilà où une petite différence, on va dire. Moi, j'étais en circuit long. Mes animaux étaient élevés dans le mouvement. Étaient tués à la coopérative de Migène qui est dans l'Yonne, et après, la plupart étaient vendus dans les grandes surfaces Carrefour de Dijon. Parce que là où j'ai une petite différence, c'est que pour moi, donner des agneaux de qualité à des ouvriers, à des employés, à des gens qui n'ont pas des gros moyens, pour moi c'était important parce que je suis issu peut-être du milieu ouvrier. Et c'est vrai que la vente directe, ça demande du travail, je pense que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et pour moi, les coopératives, c'était, ce circuit-là, disons, convenait, parce que j'avais l'impression d'offrir à des gens, entre guillemets, de la société normale, quoi, une viande que j'espère être de qualité. Bon, je mangeais les mêmes, hein, moi je leur sortais un bureau, parce que comme je dis, moi j'aime les animaux, on les soigne, on se lève les nuits, on fait du boulot, et puis on les mange. Et je prends plaisir à manger les agneaux. Et je le dis un peu en provocation, parce qu'aujourd'hui, le véganisme ou le fait de tuer des animaux, j'ai l'impression pour un certain nombre de gens, c'est devenu vraiment un crime. On est vraiment des assassins. Et les mêmes agneaux que j'élevais, je le prenais dans la bergerie quand il fallait nourrir ma famille, parce que je le vois comme ça. Et ben, ma foi, l'agneau, je le prenais, je le tuais moi-même, je les amenais pas à l'abattoir, les agneaux. Je les tuais sur place. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a vécu. Et puis, donc, en deux courses, qui m'intéressait aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer. Il y en a plein les écoles, sauf que financièrement, c'est des fois difficile. Et donc, mon gros combat, on va dire à la fin, avec l'accord des propriétaires, parce qu'on n'a jamais acheté les terres, on en a tout le temps été locataires, avec l'accord des propriétaires qui ont bien voulu nous suivre, c'est moi qui ai cherché et trouvé un jeune il y a un couple de jeunes qui prend la suite et qui continue pour l'instant pour changer des choses. C'est normal, mais chaque génération amène ses améliorations ou pas. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. Oui.
Charolais.
Mais je suis un des les deux, ouais.
D'accord. Et donc, tout ce que la femme a regrandi entre temps.
Moi, je me suis. Alors, c'est un choix que j'ai fait. Donc, comme je vous disais au début, j'ai même réduit la surface de 20 hectares parce que les 20 hectares supplémentaires, ils étaient à 6 km. Et dans ma petite tête, un peu bornée, un tracteur agricole, c'est fait pour rouler dans les champs. C'est pas pour faire de la route. Donc, j'ai laissé partir ces 20 hectares. Je me suis recentré, si on peut dire, sur les 70 qui étaient sur place. Et après, alors quand on s'installe, c'est vachement facile. Parce que personne ne vous propose de terrain. Tout le monde est persuadé que dans les 3-4 premières années, vous allez capoter, vous n'allez pas avoir votre vie, donc c'est pas la peine de mettre du terrain, voilà. Et puis, au bout de quelques années, quand vous avez fait un petit peu, entre guillemets, vos preuves, ou en tout cas, vous êtes toujours là, on vous propose la terre. Et là, c'est vrai qu'on se pose la question. Et aujourd'hui, pour aller un peu plus dans la réflexion, moi, j'ai toujours refusé. Mais en fin de carrière, avec le réchauffement climatique, qui est une des problématiques aujourd'hui, j'étais obligé d'acheter du foin. J'étais plus autonome en fourrage sur mes animaux. Et donc voilà, c'est des questions.
Prairie
permanente et artificielle, puisque je retournais des prairies quand elles étaient dégradées. Alors ça, c'est pareil, c'est un sujet aujourd'hui. Retourner les prairies dégradées, ça permettait, grâce à la matière organique, d'avoir 2-3 ans de rendement correct. Correct, c'est 40 quintaux, hein. C'est pas autre chose. Mais avec peu d'intrants, du matériel d'occasion que je possédais, c'était rentable.
C'est de rente ou
c'était pour engraisser des agneaux en particulier et une partie pour les vaches pour le surplus.
Le système de rente, il traitait de la gigons et de bovins, ça a marché tout le long de votre activité.
Alors sur les ovins, on en parlera peut-être aussi du prix de vente des ovins qui a beaucoup évolué entre les années 90 et après dans les années 2000. Dans les années 90, que les moutons se vendaient très mal, ma coopérative est toujours venue les chercher. Que les autres acheteurs privés, je n'en voyais jamais. Et quand les moutons sont devenus bons, je les ai vus. Je leur ai quand même posé la question, vous étiez où quand ça allait mal? Parce que la coopérative, on pourra peut-être en parler un petit peu, moi je trouve que ça sert un petit peu, c'est devenu tellement énorme. Un agriculteur n'a plus quasiment son mot à dire là-dedans, mais comme ils ont toujours été corrects avec moi je suis resté fidèle. Sur les bovins, la coopérative, il y a un moment où ils m'ont dit, maintenant tes bovins, tes broutards, on vient les chercher, et puis on te redonnera un prix après. Et ça, j'ai jamais voulu. Ça, moi, j'ai dit, mes animaux, ils partent de ma cour en ayant un prix. Moi, je veux savoir ce que je gagne et ce que ça me rapporte. Et donc, j'ai changé plusieurs fois j'ai vendu à des coopératives, à des privés aussi.
Il y a des choses, c'était quelque chose.
Moi, en Morvan.
Je crois qu'il y avait une autre question dans la salle. Ou pas, ou plus. Ok. Bah, je vais passer le micro, du coup, à la quatrième personne.
Bonsoir, je suis Cyril Beaulieu, je suis paysan dans la vallée du Louche à Malin. Je suis aussi, comme mes deux collègues, non issus du milieu agricole.
Les trois collègues, j'ai l'impression.
On est tous des nimas, des non issus du milieu agricole. Donc c'était une reconversion professionnelle dans mon cas. Je me suis installé en 2015, ça fait 8 ans maintenant. 9, bientôt. et je transforme ma production en farine et puis en pain que je vends, que je commercialise en direct à mon fournil principalement, et aussi dans des amas sur Dijon, Fleuret, Velard, et puis en épicerie sur Dijon. Et je suis aussi co-porte-parole du syndicat de la Confédération paysanne de Côte d'Or. Je suis installé dans le cadre d'un collectif où on est quatre agriculteurs. Sur mon relevé parcellaire RMSA est inscrit 29 hectares. Mais en réalité, on a un assolement en commun sur quatre fermes, sur 80 hectares.
Il y a que des céréales.
Non, on a quatre fermes assez différentes. Deux fermes d'élevage, une avec des cochons, une avec des brebis laitières, transformation fromagère, et puis une troisième ferme de la mienne qui cultive des plantes oléagineuses pour la transformation en huile.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer le présent? Ok. On va pouvoir passer au deuxième temps sur les ressentis sur les mobilisations qu'il y a eu les dernières semaines, les derniers mois.
On rentre plus dans le vif du sujet de l'actualité, quoi. Et ce qu'on voulait poser comme question pour commencer cette partie-là, c'est de savoir comment vous avez vécu ces mobilisations, quels ont été vos ressentis par rapport à ce qui s'est passé, aux différents événements qu'il y a eu, et puis même si vous avez pris part à ces mobilisations, si vous avez envie d'en parler, quelle part vous avez eu là-dedans.
Je garde le micro,
ouais, aussi, je n'ai pas de ça.
Donc évidemment, en tant que confédéré, j'ai pris part, comme mes collègues, à ce mouvement-là qui était assez unique et qu'on n'avions pas connu depuis longtemps. Il faut noter que à la base, ce ne sont pas des revendications syndicales qui sont parties dès le départ. C'était des revendications d'un éleveur qui s'appelle Jérôme Bail dans le sud de la France, qui était non syndiqué et qui visiblement a réussi à coopter autour de lui plusieurs agriculteurs, plusieurs groupes d'agriculteurs, et puis la sauce est montée comme ça, et c'est que après, donc quelques jours plus tard, une fois que eux-mêmes avaient organisé un bref barrage de routiers, que les syndicats sont rentrés dans le jeu de manière opportune, avec des sujets, parce que quand on est syndicat, on a toujours des sujets sous le coude à revendiquer, des idées à revendiquer, et du coup, la FNSEA, JIA et peut-être la coordination rurale sont rentrés en même temps dans le jeu. La Confédération paysanne a pris un peu le temps d'observer ce qui se passait parce que même si on peut avoir des revendications communes sur certains sujets, eh bien il y a eu une forme de prudence parce que on avait besoin d'analyser les choses et puis après chaque confédération locale est souveraine, donc elle a décidé de prendre part ou pas physiquement aux manifestations de manière autonome ou avec certains syndicats. En Côte d'Or, ça s'est pas passé comme ça. La Confédération paysanne, elle ne s'est pas associée aux autres syndicats pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, on n'avait pas on n'avait pas de convergence particulière sur des sujets, hormis les planchers, mais la hiérarchisation des revendications n'était pas la même pour les syndicats. La question du financement était dans le haut du panier, enfin dans le haut des revendications pour la Confédération paysanne, ce qui n'était pas le cas pour les autres syndicats. Et puis l'autre raison, c'est que localement, nous avons des relations exécrables avec la FNSEA. Les GIA pour un peu moins, mais la FNSEA surtout. Et donc on est tout à fait méprisé. En réunion préfectorale, par exemple. Donc, nous a semblé plutôt inopportun de s'associer à ces mouvements que Louis a rappelé, notamment à Bouygues. En revanche, ça ne nous a pas empêché d'organiser peut-être la plus grosse manif de tracteurs à Dijon. Nous avions tous nos petits tracteurs enfants. C'était le 10 février.
Ah ouais.
Et voilà, 400 participants, des paysans et puis d'autres structures amies, on va dire, qui soutiennent la Confédération paysanne, les amis de la Confédération paysanne, bien sûr, ATTAC, les soulèvements de la terre, Extinction Rébellion et autres, les éco-terroristes. Voilà. Mais c'était une manif autorisée. La manif n'était pas interdite, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'était un mouvement super intéressant parce qu'il a émergé comme ça, il y a une vraie colère qui était multiple, hein. Il y avait beaucoup de revendications et qui couvait depuis longtemps, tu as raison. Et il se trouve que il y a quand même eu une victoire de la CONS, c'est cette question de prix plancher. Qui est encore en travaux avec le ministère en ce moment. Et ça, c'est une victoire importante. Davantage pour les fermes qui se trouvent en circuit long, plutôt que les fermes comme les miennes qui vendront en circuit court et qui maîtriseront le prix en général.
Est-ce que tu peux en plus expliquer, enfin je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, les prix plancher et qu'est-ce que ça veut dire?
Les prix plancher, prix minimum d'entrée sur le territoire. Manon pourra en parler bien mieux que moi parce que elle, à mon avis, elle est montée au prix du mouton néo-zélandais, même si visiblement le mouton de Nouvelle-Zélande n'est pas vendu au même endroit que elle pense ses moutons. Mais le fait est que la Nouvelle-Zélande, pour plein de raisons, est une référence de prix. Alors on parle du mouton, on pourrait parler de plein d'autres choses, du maïs, d'Amérique du Sud et compagnie. Mais voilà, ces questions du plancher, c'est on n'autorise pas des produits qui viennent de trop loin, avec des fabriqués dans des considérations environnementales très différentes des nôtres, sous peine de créer on comprend bien, quoi. On ne va pas pouvoir vendre notre camelote de qualité à un prix raisonnable de l'administration. Parce que il y a des produits de moins bonne qualité qui arrivent à prix cassé sur le territoire. Donc, les prix planchers, c'est alors déjà il y a la revendication aussi d'augmenter le critère de normatif, on va dire, environnemental sur les produits qui arrivent. Mais le prix plancher, c'est définir le prix qui rémunère le producteur. Donc ça, c'est basé sur les coûts de production et pas sur le coût du marché, peut-être le prix du marché. Donc après, il faut être en mesure de donner ces coûts de production. Mais ça, le prix plancher, c'est on ne peut pas vendre notre camelote en dessous du prix de revient plus d'autres choses. Mais voilà, et malheureusement, c'est ce qui arrive depuis trop longtemps. Beaucoup de paysans, céréaliers, éleveurs, sont obligés, en fait, de vendre leur prix en dessous de leur coût de revient. Et c'est ça qui fait que les fermes, les revenus des paysans diminuent d'année en année. Et que la colère augmente proportionnellement, inversement proportionnellement.
Merci beaucoup pour l'explication. Je sais pas du coup si madame peut nous réagir dessus ou pas. Ou sinon juste exprimer sur le truc qu'on ressentit par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois.
Moi, ce qui s'est passé ces derniers mois, le début des manifestations, ça m'a beaucoup touchée. Notamment, ouais, peut-être. Je vais plutôt parler du prix de l'agneau. À la radio, hier, il y a quelqu'un qui s'exprimait sur le prix de l'agneau néo-zélandais. Il a 7 euros le kilo. L'agneau français en boucherie,
il est, je pense, autour de 20. Le gigot d'agneau, hein, celui qu'on va manger à Pâques, le traditionnel. Moi, je le vends 26 euros le kilo en bio. Je sais pas. Enfin, ça parle. C'est 4 fois le prix de ce qu'il y aura à Lidl. Après, je comprends aussi qu'il y a des gens qui peuvent pas l'acheter à ce prix-là, mais c'est quand même bien un problème, quoi. Les arguments qui étaient mis en face, c'était que en Nouvelle-Zélande, c'était des énormes troupeaux qui avaient des économies d'échelle. Certes, ils produisent à l'herbe, hein, pour le coup, c'est un élevage assez relativement propre. Et puis, c'est un élevage aussi qui produit beaucoup de laine pour la Chine. Et du coup, la viande est considérée presque comme un coproduit. Je ne veux pas dire un sous-produit, mais un coproduit, quoi. Nous, la laine, ici, on ne la valorise pas. On a, suite au Covid, la laine, elle n'est plus exportée. On stocke de la laine dans nos bâtiments, on ne sait pas quoi en faire. Donc la viande, c'est la seule rémunération sur un élevage au vin. Donc oui, quand il y a eu ce soulèvement, moi je me suis sentie... J'étais heureuse, quoi. Je me disais, ça y est, c'est bon, on y va, quoi. Et tout ça pour approcher d'une réduction sur GNR. Ça fait chier, quoi. J'ai vraiment eu le sentiment que la montagne accrochait de la souris. Et quand ils ont appelé à ce que tous les tracteurs repartent et tout ça, ben, j'ai pas trouvé ça correct. C'était dévalorisant par rapport à ce mouvement. Il y avait des convictions derrière tout ça et ça a été réduit à des petites actions. Et ça, je trouve pas ça juste. C'était dégradant. C'était dégradant pour tous les agriculteurs qui étaient dans cette manifestation, qui se sont pas reconnus. Et nous, l'impact sur la taxe du GNR, pour nous, des petites fermes comme nous, c'est zéro. Ça représente rien. C'est à l'hectare, ça va être intéressant pour ceux qui ont des grosses fermes.
Je voulais rajouter un petit coup sur les moutons. Bon, je vais pas te faire plaisir, hein, mais bon, vu comme ça, je dis ce que je pense. Moi, je te disais, j'ai vécu les années 90, où à l'époque, on vendait les agneaux, 7 francs, mais on les vendait 2,30 € le kilo, à peu près. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, les agneaux néo-zélandais étaient déjà présents. On avait déjà ce problème-là. Bon, ma foi, ils étaient à 2,30 €, on les vendait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais très bien content qu'ils partent. Et puis, ma foi, voilà, on faisait avec. Et puis, dans les années 2000, le prix de l'agneau est monté à 4 €, a doublé. Pour moi, c'était quelque chose de phénoménal. Et puis, il est monté à 7 €. Et toujours, et pourtant, il y a toujours des agneaux néo-zélandais. Donc, derrière tous ces prix, entre guillemets, sûrement artificiels, il y a quand même des choses que j'ai quand même du mal à comprendre. Comment se fait-il que notre propre agneau, et je peux comprendre quelqu'un qui s'installe aujourd'hui avec les charges d'aujourd'hui, ce n'est plus les charges qu'on avait dans les années 90, hein, on est bien d'accord. Mais je veux dire, comment se fait-il que des prix peuvent varier comme ça, et sans, alors, le néo-zélandais, il y a longtemps qu'on lui tape dessus, ça joue sans doute un peu, mais le problème, il est là, c'est que le consommateur, il a un porte-monnaie, et il peut pas. Si tu arrives à les vendre en direct au prix où tu les vends, tu peux continuer. Il faut que tu sois positif, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Après, il faut trouver les clients. Mais c'est vrai que c'est ça. Et donc, après, sur les manifestations, le début est réel. Moi, j'ai vu des agriculteurs qui étaient en crise parce que le Sud-Ouest, dans son ensemble, a été touché par la MHE. Il y a eu des élevages qui ont été bloqués et tout ça. Et après, je pense que c'est quand même pas anodin. Je pense que tout le monde est au courant qu'il y a des élections européennes dans pas longtemps. Et donc, la FNSEA s'est servi de tout ça, le gouvernement avec, pour faire le petit truc. Alors, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, dans mon parcours, comme quoi j'ai beaucoup de défauts, j'ai commencé chez les GIA, Parce qu'en 1986, quand je suis devenu agriculteur, c'était les tout débuts de la Confédération paysanne, mais elle n'existait pas encore. Je suis rentré chez les GIA, pas par conviction, mais uniquement pour me faire connaître de mes voisins. Parce que comme on le dit, quand on n'est pas issu du milieu agricole, on n'est pas vraiment accueilli. Alors comme je savais que je ne serais pas accueilli, pour me faire accueillir, j'allais chez les autres, on buvait un canon, on buvait du café, enfin bon, j'ai jamais eu de problème pour rentrer chez les autres. Et quand vous êtes GIA, vous passez la FEDE, parce qu'il ne faut pas oublier que 80% des jeunes qui sont chez les GIA sont des fils d'agriculteurs. Donc vaste communicant, ça marche comme ça. Ils nous disent qu'il y a deux syndicats. Moi, je veux bien, mais bon, tant que les GIA non issus du milieu agricole n'auront pas pris le pouvoir aux GIA, ça ne marchera pas. Et à la FNSEA, la grande différence que j'ai vue, puisque aujourd'hui, moi aussi, je suis à la Confédération paysanne, depuis 2011, je crois que c'est ça, ou 2001, oh merde, je sais plus. Ça fait déjà un moment, non, ça doit être 2001, excusez-moi, au niveau des élections. Et donc, la différence que j'ai vue, c'est que quand vous êtes à la FNSEA, les décisions sont déjà prises au niveau national, voire européen. Et le seul but, voilà, la cogestion. Et donc, le seul but des dirigeants de la FNSEA et des FDSEA, c'est de faire adhérer leurs adhérents, qui sont des agriculteurs comme nous, parce que moi j'en ai rencontré qui ont les mêmes problématiques que nous, qui défendent les mêmes choses, tout ce que tu dis, tous ceux qui étaient partis la fleur au fusil en croyant à tout ça, et qui se font ramasser, parce que voilà, les décideurs là-haut, eh ben, ils voyaient pas comme ça. Ils nous ont rajouté un bon coup sur tout ce qui est verdissement, sur tout ce qui est environnement et tout ça. Ils se sont servis de la manifestation de la multitude pour défendre l'intérêt de quelques-uns. Et à chaque fois, ce que tu dis, et je le comprends, quand on rentre chez nous, moi, je me rappelle toujours de 1992, réforme de la PAC, où là, on passait d'un système, les aides étaient en fonction de la production. Là, les aides sont passées à l'hectare. Sauf que je suis monté à Paris, avec les autres, et quand on est redescendu, je me suis aperçu que les autres, sur 200-300 hectares de céréales, ils touchaient 300, enfin, en euros, parce que si je vous parle en francs, ça va pas le faire, ils touchaient 300 euros de l'hectare, et que nous, dans nos fermes d'élevage, on touchait que 100. Je me suis dit, moins de surface, moins d'animaux, moins de production, et puis moins de sous, ça va être compliqué. Mais bon, on y arrive quand même. Mais c'est vrai que voilà, le système est comme ça, et c'est vrai que je ne crois pas que c'est encore cette fois-ci qu'on va l'avoir bousculé. Alors, il faut rester positif, il faut croire en ce qu'on fait. Après, voilà, la FNSEA, j'ai essayé de l'intérieur parce que j'y croyais, j'étais vraiment convaincu. J'allais aux réunions, j'ouvrais ma grande gueule comme aujourd'hui. Au début, on m'a accueilli et tout, sauf qu'à la fin, pendant les reports et tout ça, on vous dit, ah, mais tu verras dans quelques années, ça comme les autres, tu vas investir, tu vas t'agrandir, il faudra bien que tu manges ton voisin parce que le voisin, tu vois bien qu'il va pas tenir la route. Et cette mentalité-là, il y en a qui l'ont encore. Ils sont pas très nombreux, hein, pas si nombreux qu'on croit, mais malheureusement, c'est eux qui décident pour nous. Et à la contre, c'est la note tort, si je puis dire, c'est que quand j'ai une décision qui est prise, avant, elle n'est pas prise en haut et après, elle descend pour obliger ceux d'en bas. Ceux d'en haut demandent à ceux d'en bas quelles sont leurs positions, quelles sont leurs convictions, sur quoi on se bat, sur quel... et après ça remonte. Donc on a l'impression qu'on est un petit peu plus lent que les autres à réagir. Mais je sais que je me sens beaucoup mieux dans cette famille-là maintenant que je me sentais dans la famille d'avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour l'instant? Sur les manifs, alors oui, les manifs, parlons-en. Moi, j'y suis pas allé. Quand j'ai vu des tracteurs à 100, 150, voire 200 000 euros sur les autoroutes, moi, je me suis dit, non, ces gars-là, c'est pas pour moi. Je fais une comparaison qui vaut peut-être pas grand-chose. Quand vous croisez une Porsche Cayenne sur le bord de la route, qui vaut le même prix, vous vous dites pas, le pauvre malheureux, à la fin du mois, il doit avoir du mal à payer sa Porsche. Les agriculteurs, certains, alors, on en a discuté avec les uns les autres, ils sont un peu victimes de leur système. Je ne dis pas qu'ils sont tous, qu'ils le font tous volontairement. Mais il y a un moment où on doit se poser la question de ce qu'on choisit de faire. Et malheureusement, parce que c'est ce que je leur dis, quand certains nous disaient ça, on gagne point de sous. Moi, je siégeais au parc naturel régional du Morvan, la commission agricole. Certains agriculteurs venaient en me disant, oui, mais ça va plus, on vend pas assez cher. Il faut qu'on vende plus cher et patati patata. Quand je les connaissais un peu, je leur disais, mais oui, t'as un tracteur là, qui, tu pourrais, t'es sûr que tu pourrais pas t'en passer? Oh ben oui, mais non. Mais je dis, si tu choisis, c'est un choix, hein, chacun est libre d'acheter le matériel, d'avoir les exploitations qu'ils veulent. Mais après, on assume. Moi, je dis, quand on fait des choix, il faut qu'on soit capable d'assumer. Et quand ça finit, comme ça finit parfois avec des agriculteurs qui se suicident parce qu'ils s'aperçoivent à un moment qu'ils sont trop endettés et qu'ils vont pas avoir le goût, là, je dis stop. Et c'est vrai que quand la manif a commencé de partir à la FNSEA, je lui dis, là, je peux pas y arriver. Après, la conf s'est greffée dessus, les revendications, bon, on a vu ce que tu viens de dire, c'est que, et puis, quand même aussi, chose qui m'a choqué, on a tous vu Sainte-Soline, je n'y étais pas non plus, je peux pas en parler directement, mais bon, j'en ai des témoignages, on a bien vu qu'il y avait quand même deux poids, deux mesures. Les agriculteurs qui ont défilé à, dans le sud, il y en a qui ont brûlé, qui ont fait des dégâts, on a bien vu que, voilà, s'ils sont à la FNSEA ou à d'autres, Ben, c'est quasi, ils ont bien dit, c'était normal. Darmanin a bien dit, je ne bougerai pas. Alors que quand c'est les gens de la conf et de la société civile qui refusent un modèle agricole, ben là, ça nous tape dessus. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que l'extrémisation des personnes et des pouvoirs devient, à mon avis, inquiétante. Parce que ça devient quand même compliqué. Qu'on soit pas tous d'accord, mais c'est ce que je dis, hein. Même avec ma femme, il y a des fois, on n'est pas d'accord. Mais il faut essayer de s'expliquer, de trouver des compromis. Aujourd'hui, le compromis n'existe plus. On a l'impression que la seule chose, c'est moi j'ai raison, tous les autres ont tort, et après les jeunes, eh ben, j'espère que non. Mais parfois, je me dis que c'est vrai qu'il y a de quoi être dégoûté quand on voit tout le travail qui est fait, toute la qualité qui est produite, et qui n'est pas toujours récompensée à sa juste mesure. Allez, à ton tour. Je suis trop long, je le sais, excusez-moi. Pour m'arrêter, c'est vraiment
juste. C'est sûr qu'on rentre dans des débats qui pourraient prendre beaucoup plus de temps et qui vont être plus loin que le monde agricole. Bah, c'est très intéressant parce que on est tous d'accord. Mais du coup, si tu veux, donnez-toi ton ressenti.
Alors, nous, au débat, on s'est senti quand même un peu éloigné parce que c'est pareil, on n'a pas les gros tracteurs. Notre tracteur, c'est un véhicule de collection sur la. Sur la carte
technique.
Oui, ça aurait été très bien. Oui, ça aurait été très bien. Bref, on a trouvé ça cool qu'il y ait des agriculteurs dans un modèle plus classique que ce que nous faisons, qui disent, en fait, il y en a marre, on ne vit pas de notre métier. On travaille 50, 60, 80 heures par semaine pour vendre 500, ou voir s'il y a des gens qui s'en sortent bien, 1500 mètres. Mais en fait, à l'heure, bon, dans tous les cas, c'est de la merde. Et en fait, tout le monde mange trois par jour. Donc ça, on se dit, ah oui, trop bien. Et puis, bon, ben, on se dit, wow, mais c'est ouf, ils arrivent à Paris et tout. Bon, on est quand même pas allé, parce que, voilà, c'est quand même un peu un groupe monde, on est allé à la limite de la conf, mais et voilà. Et puis après, quand ils sont tous rentrés, on s'est dit, mais c'est quand même une grosse blague. Il y a ma maman qui m'a dit, ah, trop bien, il y a des facilitations pour planter des haies. Je dis, mais non, t'as pas compris, c'est pour les arracher. Et quand je vois que nous, on avait acheté pour planter à 1,5 km de haies, il y avait encore, on avait financé à 100%, mais ça a coûté quasiment 20 000 euros. Et pour les arracher, voilà, ça prend 3 secondes avec un gros engin. Donc voilà, donc on s'est dit, mais on est quand même parlé. En même temps, on se demande si avec les motifs de la fac, on va pas encore perdre, nous, en tant que bio, vu qu'ils enlèvent toutes les conditions écologiques, si ça se trouve, on va perdre. Déjà qu'on n'a pas grand chose. Bon, voilà. Mais sinon, c'est bien que, enfin, si, il y a un truc intéressant. On a 2-3 personnes qui sont venues en disant, ah bah, vu que les agriculteurs, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Du coup, on a regardé ce qu'ils vendaient des choses autour de chez nous et on vient voir. Donc, pour ça, c'est pas mal. Et après, sur les prix, en fait, bah, je trouve qu'il y a un problème aujourd'hui dans le monde agricole. Enfin, il y a quelques personnes, quand même, qui veulent manger bien de plus en plus, qui disent, bah, je réfléchis pas si elle a la qualité, je suis prêt à payer et tout. Mais la plupart des gens, ce qu'ils regardent, c'est le vrai prix, une bonne chose, Et en fait, on se retrouve à, enfin, nous, sur les légumes, on est comparé avec, la plupart des légumes sont produits en Espagne, en France, mais dans des conditions, où je vais pas trop travailler, quoi. Et en fait, on se retrouve à produire, en gros, si on fait parler avec les vins, on produit du premier cru, du grand cru, mais après, on le vend au prix du pastourin. Et tout le monde trouve ça normal. Et encore, il y a des gens qui nous disent, bah, normalement, si chez le producteur, c'est moins cher, vu qu'il n'y a pas de marge. Donc, voilà. Nous, on est à peu près au prix du supermarché qui est à 2 km de chez nous. On est peut-être un peu plus cher parfois. Mais en fait, même comme ça, très honnêtement, on ne se paye pas depuis 3 ans. On bosse 60 heures par semaine à deux. Donc, voilà. Mais on va le faire, hein. On va y arriver. C'est bien, on va se payer peut-être 500 euros à deux chacun. Enfin, bon, bref. En gros, on aura 10 000 euros à la fin de l'année. C'est vachement cool, hein. Mais voilà, c'est alors il y a un côté choix, c'est sûr, hein, on fait des choix. Nous, on a fait le choix de partir de rien, donc forcément, bah, il y a beaucoup d'investissements. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut voir planter des légumes, c'est pas juste acheter des graines et les planter, quoi. On pensait que ça reste des gros investissements, parce que les légumes, ça prend beaucoup sous serre, et que nous, serre, c'est cher, et ça part de s'en monter. Mais en fait, ça va le faire, mais c'est quand même vachement long. Et entre-temps, on prend, nous, on fait ce choix-là parce qu'on y croit et qu'on se dit que de toute façon, si on veut manger dans la vie, on est obligé de le faire. Et aussi parce que c'est quand même bien. On est quand même content, on ne tournerait pas dans un bureau, mais ça fait un peu chier parce que, en fait, on porte nous, à titre personnel, un truc qui devrait être collectif. Et par exemple, on a fait ça notamment par rapport au changement climatique. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, en tant qu'agriculteur, on prenait tout en pleine gueule parce qu'on a eu 3 ans de grêle, un maire qui s'est renouvelé 3 jours après la remontée. Bon, on l'avait un peu mal monté, mais en plus, on voulait. Enfin, voilà, en fait, on prend plus cher que les autres. Et quand les gens, ils sont pendant l'orage chez eux, bien au chaud, nous, on dit, ah putain, faut qu'on y aille. T'as trop plus cher, on va se prendre un grégon de 10 cm sur la tête, il va mourir. Enfin, bon, bref, voilà, c'est des problématiques un peu bien gros. Du coup, je vais faire comment je prie.
Super, merci beaucoup. Alors, on va avoir une grosse dizaine de minutes de temps de questions, là, si on a ce nom.
Le micro, je ne sais pas. C'est quoi ton montant d'investissement?
Delphine,
pardon.
Pas grave. Alors, donc, par leur taxe, on est quasiment. Il y a un montant d'investissement, mais après, il y a un montant de subvention. Parce qu'il faut quand même savoir que l'agriculture est très subventionnée. C'est pas conditionné au fait de faire des trucs bien, mais c'est très subventionné. Donc, du coup, nous, on aura investi quasiment 200 000 euros, ce qui est juste monstrueux. Mais en fait, de notre poche, on n'a pas mis grand-chose. Parce que on a eu chacun 20 000 euros de DGA. Bon, on a quand même gardé un peu pour se payer, parce qu'à un moment, voilà.
Okay.
Voilà, c'est ça. Même si on mange des légumes, donc
c'est
ça.
Un peu dur d'avec.
On a des œufs aussi. Voilà, tu rentres des légumes. Ouais, on a des couilles. Et sinon, on a eu 60% de financement sur notre bâtiment. Ce qui, en fait, on aurait peut-être mis la même somme sur les phénomènes, mais là, on s'est dit, bon, bah, c'est pas plus mal, on fait bosser des artisans de la commune. Donc voilà. Le poulailler, il y en a un des deux qui était financé à 60%, le deux serres financé à 50%. Donc en fait, finalement, on a une grosse subvention. Sauf que, à chaque fois, il faut l'avancer, cet argent. Et que là, en ce moment, notre bâtiment, ça a pris du retard, après, il met du temps à rembourser. Ça nous coûte 150 euros par mois, le prêt à court terme d'avance de subvention de la banque, pendant 2 ans. Bon, bref, c'est des trucs qu'on ne fait pas gaffe au début, puis à la fin, c'est des grosses sommes. Et voilà, 200 000 euros quasiment d'investissement. Pour 3 hectares,
ça
va être.
Comment? Qui a fait un masque en 2008, ça.
Ah, pour l'instant, ça va mettre quand même.
Oui, c'est un problème, là.
Mais c'est vrai que si on, c'est bien de payer les cotisations sociales, tu vois, mais il n'empêche que si on ne payait pas les médecins, on pourrait se payer.
Oui, non, mais la paye, parce que je veux dire, c'est que, moi, je dis bilan aussi, je dis 15 ans au marché, je fais 15 autres bilans, je fais un petit.
C'est déjà bien.
Je suis
positif, bête,
pour le marché, je suis pas bien.
Non, mais si, pour l'instant,
moi, j'ai investi 400 000 euros, si j'avais tout divisé, j'avais dû visiter à la débat, j'avais dit, ah, on reste plus en vente directe, il m'a acheté un bout à la main. C'est bon, 15 ans, après, je fais une balle, je fais le trait, etc. Le 19, j'ai dit, bon, j'ai arrêté. Mais on arrête, j'ai sorti sur maintenant, c'est fini, on n'a pas rien faire. Faut que vous voyez, ou pas. Bon courage, hein, bravo pour les jeunes, hein, vous voyez, là. Moi, la MSA, c'est dit, voilà, moi, la MSA, elle est payée. Des charges sociales sur trois élections, je n'ai pas fait.
Oui.
Mais c'est
pas très fort.
8 millions par an de charges sociales sur 3 années, je n'ai pas fait. J'ai arrêté en 2019, je paye 2020, 2021, 2022. J'ai plus quoi encore.
Et ça m'étonne pas trop.
Ah, mais ça.
Il y avait toujours des crédits elle avait 6 mois de retard pour toucher sa retraite et qu'elle avait besoin de rebosser pendant 6 mois parce que la MSA a 6 mois de retard pour mettre ses
charges. Il faut savoir que dans mon école, ça a plus qu'on est donc, les grands commerciales, les chefs de chef de la MSA, c'est qu'ils vont tomber beaucoup de petits paysans. Parce que, les chefs de chef sont quand même très importantes, sur les termes. Le problème, c'est qu'ils trompent cette année comme agriculteur, en 3 ans, c'est déjà des recherches sociales. D'accord? Donc, on dit, là, on ne voit rien.
Non, c'est pas vrai.
Tu m'attends. Tu comme ça, c'est progressif. C'est pas ça,
oui, mais
c'est
parce qu'on
s'en va. Et la année, c'est pas progressif. Vous avez un bilan, donc, 6 000 euros de réfugiés. Après, c'est un peu de l'argent.
Oui, moi, je voulais réagir parce que, justement, quand je me suis installée, c'est un peu ce que je me disais. Je me disais, bah, de toute façon, on va manger les produits de la ferme, puis on va faire de l'échange avec les paysans à côté et tout. C'est vrai. Mais en fait, le reste de la vie coûte aussi très cher. Et l'inflation qu'on vit en tant que consommateur, on la vit aussi en tant que, du coup, paysan. Donc, du coup, il faut sortir quand même plus de salaire, même si on a des vies, on va dire, modestes. Donc, l'abonnement de téléphone, il a monté, les assurances aussi. Donc, en fait, ça, moi, le revenu que je prélevais avant ne suffit plus. Donc, il a monté, mais il y a aussi toutes les charges de la ferme qui ont monté. Les coûts d'électricité de la ferme ont monté, l'abattoir. Donc, après, ben, c'est sûr, on répercute sur le prix de vente. Des fois, ce qu'on n'ose pas faire, parce que, ben, voilà, on pense aussi à nos consommateurs qu'on voit. Donc, ça interroge ça. Moi, je l'avais pas mesuré quand je me suis installée.
Et souvent, on a des fournisseurs en face qui nous disent, mais vous comprenez, je n'ai pas le choix, ça augmente. Et puis, t'as envie de dire, bah, mais moi, je fais comment? Je suis en bout de ligne et si je passe de 5 euros le kilo de tomate, qui est déjà, c'est 4,99, hein, bien marché. Oui, c'est ça, mais si tu passes à 8, bon, bah, ça fait beaucoup, quoi. Puis après, il y a aussi ce truc de, on est beaucoup à être agriculteur, à se dire, oh non, il faut quand même pas que les gens ils payent trop cher. Et pourtant, le budget de l'alimentaire a vachement baissé. Avant, ça devait être 30%, et le jour, c'est 7-8. C'est un
problème de l'environnement. Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste laisser la parole peut-être à d'autres gens aussi, et puis respecter l'événement, que tout le monde puisse s'exprimer? Désolé. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont se faire à vous, bien sûr, hein, mais c'est juste
Ouais. J'ai une question. On pense souvent qu'il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir après sur l'agriculture.
Ouais.
Est-ce que vous avez l'impression que, du coup, la tendance autour de vous, c'est plutôt à l'arrondissement des fermes? Profitons des nouveaux qui viennent.
Moi, c'est particulier parce que je côtoie beaucoup des gens comme moi. Notamment, on est dans une association où il y a à la fois que, bah, d'ailleurs, il y a Manon et Cyril, puis quoi. Moi, je vois plein de gens dans le bal, mais je vois aussi des gens qui arrivent dans des modèles comme les nôtres. Et voilà quoi. Et PCCI, le jour où il y a un chiffre, disait donc la moitié des agriculteurs partent en retraite dans les 10 ans. Et en fait, il y a quand même des installations, mais en fait, le chiffre ne rattrape pas. Et le problème, à la limite, c'est pas tant les petits, entre guillemets, agriculteurs qui ont 150 hectares que ça grandisse. Moi, ce qui me fait peur, c'est les groupes industriels qui arrivent avec les terres. Et où après, en fait, t'es plus agriculteur, t'es salarié, genre t'es ouvrier dans un champ. Et alors ça, moi, ça me fait flipper, parce que déjà ouvrier, c'est pas drôle. Mais alors, ouvrier dans un champ, sachant que la nature fait un peu ce qu'elle veut, donc tu dois t'adapter tout le temps. Si t'as un mec qui est dans son bureau à Paris avec sa cravate et qui te dit, mais attends, là, on avait dit qu'on plantait les navets à telle date et tu l'as fait 2 jours après, je suis pas content. Là, ça va être chaud. Donc,
À ce sujet-là, c'est vrai que mon élevage en particulier, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de génération, parce qu'aujourd'hui, on a justement ça, et il y a longtemps qu'on le connaît, la démographie des agriculteurs. Et aujourd'hui, le problème de l'élevage, justement, en particulier, c'est que les grosses structures sont partenables par des jeunes comme nous qui viennent sans argent. Moi, je l'ai vu avec le jeune qui a repris ma ferme. Il est originaire d'Alsace. Bon, en Alsace, il a laissé tomber. Les terrains sont trop chers et tout, c'était impossible. Il est venu donc dans le Morvan, qui ressemble un petit peu, parce qu'il y a de la famille dans les Vosges. Et il est venu dans le Morvan. Il a été voir plusieurs autres fermes. Et à un moment, il m'a dit qu'il allait voir une ferme que je connaissais un peu, qui est de l'autre côté du Morvan, mais pas très loin. Une ferme, on dirait, très moderne, plus que la mienne, parce qu'on parlait de tracteur. Moi, j'ai toujours travaillé avec ça. Tant que ça fait le boulot, le reste, j'en ai rien à foutre. Hein. Faire plaisir aux marchands de machines agricoles, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le gros souci. Les tracteurs à 150 000, les gars, ils s'entraînent avec ça. Les animaux, le prix de vente a augmenté, mais les charges aussi, et les tracteurs ont pas doublé, ils ont pris 30%, il paraît. C'est quand même terrible. Alors, donc, pour revenir aux exploitations de, comme je disais tout à l'heure, 100, 150 vaches, qui sont la norme, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire la norme, on n'en sait rien, mais aujourd'hui, c'est des reprises à 500, voire 1 million d'euros. Et quand vous êtes non issu du milieu agricole, moi, le jeune qui a repris ma ferme, il a amené quasiment la moitié de la somme. Moi, la reprise, c'était 260 000, pour ma part, c'est-à-dire il a racheté les bâtiments, maisons d'habitation, matériel et 2 cheptels, bovins et ovins. C'est une somme qui n'est pas énorme, justement. Mais et puis c'est, ça c'est pareil pour installer des jeunes. Moi j'ai travaillé un peu à l'envers, c'est-à-dire que j'ai commencé par regarder le BE de mon exploitation pour voir le BE. Je sais pas si tout le monde connaît ce que c'est. C'est ce qu'il nous reste justement pour voir avec cette marge-là un jeune combien il pouvait s'endetter. Et donc c'était pas la peine, comme je disais tout à l'heure, de regarder le patrimoine, de regarder sa valeur. Si on veut installer des jeunes. Voilà. Et donc, dans les grosses exploitations, c'est impossible pour des jeunes non issus du milieu agricole. Et après, voilà. On a, mais les fermes seront reprises. Faut pas se faire d'illusions. Parce que justement, il y a des gens qui ont les moyens. Les fameux supermarchés, eux-mêmes, peut-être, à l'avenir, ils vont investir là-dedans pour, maîtriser. Juste, alors là, du coup, ils maîtriseront de la production, de la fourchette jusqu'au consommateur. Donc, ils vont nous piquer encore une fois notre vision du métier. Après, les grosses fermes, ça peut se couper. On les a bien agrandis. On peut aujourd'hui. Et il y a quand même des gens qui réfléchissent à ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On peut pas les prendre tel que. Donc justement, bon, je prends tout le temps le fameux exemple du tracteur, mais il n'y a pas ça, il y a tout ce qui va derrière. Et c'est vrai que si vous avez un matériel qui est adapté à une ferme de 200 hectares, si vous coupez la ferme en trois, à moins de avoir des exploitations comme ça, à plusieurs, travailler à plusieurs sur des grandes exploitations, je pense que dans les jeunes, il y en a pas mal qui veulent travailler en collectif. Et il y a de l'avenir, il y a des possibilités. Et des jeunes dans les écoles d'agriculture, moi je le dis tout le temps, il y en a en bagage. Donc, il y a des jeunes qui sont intéressés par le métier, mais dans d'autres conditions, parce que c'est vrai que ces grosses exploitations et tout, il y a un vrai problème là-dessus. Et ceux qui cèdent, eh bien, ils ne savent pas qu'on fait. Moi, j'ai réussi à me mettre, mais ça n'a pas été si compliqué que ça, en faisant quelques efforts, en essayant de bien comprendre. Et donc, pour revenir à ce que je disais par rapport à mon voisin, l'affaire moderne, le jeune, il est venu chez moi, je n'étais pas persuadé qu'il ne viendrait pas. Il m'a dit non, parce que démarrer avec un endettement de 500 000 euros, il a dit, là, je suis au taquet, il faut que les sous soient vraiment sûrs, faut que les vaches fassent bien un gros tous les ans, faut que la brebis fasse bien un agneau et demi tous les ans, que je le commercialise à tel prix, ils sont complètement pris dans le système. Et je crois que, et puis heureusement, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus non plus devenir des parce que c'est déjà des ouvriers, hein. Ils sont ouvriers de l'industrie mécanique, ils sont ouvriers de l'agrochimie, ils sont ouvriers de tout ça, ils ont l'impression d'être exploitants, mais je suis pas sûr qu'ils exploitent grand chose, ils se font exploiter plutôt qu'autre chose.
À toi, ta version des choses.
Ta question, c'était de savoir la dynamique de reprise ou agrandissement, c'est ça? Je connais pas les chiffres très précisément, je pense qu'il y a des dynamiques qui sont très différentes autour du monde. Je pense que la dynamique de la vallée couche n'est pas du tout celle de la dynamique de la plaine dijonnaise. J'aurais tendance à penser que du côté de la plaine dijonnaise et en tout cas des grands territoires céréaliers, on peut aussi retrouver en Nord Côte d'Or, là on va plutôt avoir des agrandissements de fermes. Alors que pour ce qui pourrait concerner les zones avec des rendements plus faibles, on va dire, avec des fermes plus petites, on va avoir soit une stagnation de la surface à la ferme, voire une diminution de la surface par ferme, parce que si ça se fait comme nous on l'a fait à Manin, un cédant a remis à 4 degrés, ce qui est très très rare, mais voilà, sur des territoires comme les nôtres, où les rendements céréaliers en conventionnel tourne autour de 50, 60 quintaux et en bio, quand on a fait 20 quintaux, on est pas mal. Où il y a le modèle dominant polyculture élevage et où il se trouve que la vallée de Douche est une zone beaucoup de je pense de Dijonnais aisés migrent ou habitent. Voilà, il y a un vivier de personnes qui ont probablement plus les moyens de s'informer, d'aller acheter des produits de qualité, et donc on va plutôt avoir des agricultures pas de niche, mais en tout cas plus petites que sur les grands plateaux céréaliers ou bien Nord Côte d'Or ou Châtelet. Et après, pour prendre de recul sur les différents témoignages qu'on a eus et les questions qui ont été posées. En fait, c'est la question de qu'est-ce qu'on veut comme agriculture qui se pose, qu'est-ce que les gouvernements, j'allais dire qu'est-ce que les gouvernements veulent, mais c'est pas à eux de vouloir, mais qu'est-ce que les gouvernements font et qu'est-ce qu'on veut comme agriculture. Et l'agriculture, elle est très liée à la démographie. Et quand il y a une déprise sociale, il y a une augmentation de la surface à la ferme. Je ne sais pas si vous connaissez Châtillonnet, moins en moins d'habitants dans Châtillonnet, et des fermes qui s'agrandissent. Et du coup, je pense que c'est effectivement plus difficile de s'installer sur un système en vente directe et en bio dans ces endroits-là, parce que ceux qui restent, en quelque sorte, dans ces pays, dans ces territoires-là, c'est les gens qui ne peuvent pas bouger. Et ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils n'ont pas de sous. Voilà. Ou ils n'ont pas cette culture d'ouverture et de comprendre ce qui leur arrive. Et quand on va dans le Châtillonnet, par exemple, quand je suis manifesté contre un méga-méthaniseur à Sérigny, et ben en fait, il y a des Dijonnais presque qui manifestaient. Parce qu'il y a... nous, on comprend qu'il y a un truc qui va pas, et les gens là-bas, ils sont déjà démunis, ils ont déjà perdu confiance en fait. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on veut de notre territoire, quoi. Est-ce qu'on veut des ouvriers à la ferme avec des cheptels à 50 têtes? Est-ce qu'on veut déléguer notre agriculture à des autres territoires ailleurs dans le monde? Et nous garder la petite image de paysan qui vit dans sa ferme avec sa famille. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? Et pour ça, il y a des élections. Pour nous, les agriculteurs, il y a une élection dans moins d'un an. Donc, j'appelle mes collègues agriculteurs à bien voter, parce que c'est aussi comme ça qu'on pèse au ministère et devant les préfets. Donc, c'est les élections des chambres d'agriculture en début 2025. Bien sûr, la Confédération paysanne portera une liste en coopération. Et puis, il y a les élections européennes dans moins de 3 mois. Et on voit très bien que déjà, il y a des positionnements qui se font. Et la crise, tu l'as dit tout à l'heure, Guy, la crise qu'on a connue rendait difficile aussi pour certains partis politiques de se positionner parce que il y avait pas de faux pas à faire, quoi. Parce qu'il y a les élections dans moins de 3 mois. Faut bien voter, même si il n'y a pas que le vote, hein. Il y a aussi l'activité, c'est pas qu'une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans. Il y a l'action de terrain syndicale que chacun peut faire au quotidien chaque jour, mais il y a aussi les votes et ça compte. Oui. Je donne la parole.
Comment tu voulais réagir?
Oui, le vote et l'action, mais il y a aussi notre part de consommateur, en fait. Il y a ce qu'on fait au quotidien, nos choix.
Oui, mais ça, en fait, alors, je crois que le débat soit entre nous, mais je vais être un peu provocateur, ça me fait penser à cette bonne vieille femme du Pierre Rabhi. Et du colibri, à laquelle je n'ai pas cru pendant très longtemps, et que je ne crois surtout plus du tout, et que la part du consommateur, c'est c'est un minimum. Mais en fait, on est dans un état très centralisé, et c'est pas vraiment nous qui décidons au quotidien, quoi. Donc, il faut le faire, il faut faire nos choix, mais quand t'as pas de thunes pour acheter de l'agneau à 26 € le kilo, tu vas chez Lidl. Voilà. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on veut comme organisation territoriale, qu'est-ce qu'on veut comme organisation économique, sociale, sociétale. Et voilà, ça, c'est...
Sans
faire,
hein.
C'est un système à changer. Hein.
Ouais, excusez-moi, je m'appelle pour les...
Vous avez mis Paul.
Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes confronté à des demandes d'installation de panneaux photovoltaïques sur vos terres?
Bien sûr.
Oui.
Ça, c'est la nouvelle agriculture.
Oui, l'autre jour, on a un mec qui est venu nous parler, pour le sur pub dans la photo, et on a un mec qui arrive, il me dit, alors, on ne savait pas ce qu'il vendrait. Et il me dit, ah ben moi, je vais dans le village d'à côté et je passe pour une boîte qui fait des panneaux solaires. Ah ouais, je vais tout faire. Hein. Je fais le plan, vous pouvez mettre des serres là, comme ça, et puis machin et tout. Je dis, ok, bon, déjà, enfin, ça ne m'intéresse pas, mais on a des panneaux solaires juste pour de pompes électriques, c'est machin. Et puis je dis, mais qui est-ce qui est propriétaire de ces serres? Ah bah, c'est vous dans 30 ans. Ok, super. Donc, entre-temps, ça veut dire... Enfin, bref, c'est... Et, mais ce n'était pas des panneaux au sol, c'était des serres photovoltaïques. Ah, alors, pourquoi pas c'est intéressant. Mais qu'il y ait une boîte qui arrive et qui installe un truc chez toi dont t'es pas propriétaire, c'est-à-dire qu'ils ont un droit d'être là, de faire ce qu'ils veulent. Enfin, au terme de souveraineté, de demander des décisions, c'est possible, quoi. Enfin, voilà. Ça nous a vraiment choqué. On lui a dit, bah, ça, envoyez-nous un mail. Puis voilà. Et bah, il a jamais envoyé le mail. Donc, je pense qu'il a été super déçu. Il avait bossé. Il avait fait tout un plan. Il avait pas vu qu'il y avait des zones non constructibles, en plus. Bon, c'est-à-dire, ça a
Mais oui, en fait, la terre agricole est l'objet d'énormes convoitises. Là où il n'y a pas de manifestants, il y a des méthaniseurs. Là où il n'y a pas de mobilisation, il y a des champs photovoltaïques. Voilà. Le photovoltaïque, c'est super intéressant. Ça permet de faire plein de choses. Il y a aussi beaucoup de dérives possibles. Et à la Confédération paysanne, on a l'habitude de dire que les panneaux solaires, c'est sur nos hangars, pas sur nos hectares. Les promoteurs sont vraiment de fous et ils passent leur temps au téléphone. Moi, j'ai un appel de aller par semaine, j'en ai encore mieux tout à l'heure. Pour vous êtes agriculteur, quelle surface de terre vous avez. Alors, elle commence par les bâtiments. Et puis après, je pense que si on aura la leçon, ils nous demandent quelle surface agricole on a à dédier ce genre de choses. Mais je comprends que certains agriculteurs, fonction des revenus qu'ils arrivent à se tirer de leur ferme, acceptent des propositions alléchantes. Parce que c'est alléchant. C'est 3000 euros à l'hectare à l'année. De vous imaginez de rente.
Je sais qu'il y avait une question en haut.
Oui, c'était pour répondre un peu à...
Ok, on va devoir passer à la troisième partie, c'est juste pour prévenir. Voilà. Mais allez-y, on va essayer un petit peu, ensuite on passe à la suite.
Ouais, c'était pour introduire cette notion là de... En tout cas, c'est le système alimentaire qui nourrit les Français. Quoi. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a moins de 400 industries agroalimentaires et seulement 400 centres d'achat qui nourrissent 80%, qui fournissent 80% de... Enfin, qui répondent à 80% de la demande alimentaire. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait peut-être interroger les choses et voir comment on fait un système alimentaire qui peut faire les choses différemment et pour les paysans, les producteurs, les consommateurs. Et là-dessus, il y a une réponse qui est en train de conclure depuis... à la France d'État, en tout cas depuis 2019, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que là, c'est une des voies pour lesquelles on pourrait tous travailler. Et on parle des crises sociales, on parle de catastrophes écologiques, de changement climatique et tout ça, et ça, c'est une des réponses qui me semble très forte. Et pour éviter justement d'avoir les budgets de voie, une dynamique qui aille dans ce sens-là. On associe aussi bien les producteurs et les consommateurs pour construire un logiciel alimentaire qui rémunère les uns, permettre aux autres de manger correctement, en étant avec une certaine liberté. Donc, je répète le mot, ça s'appelle sécurité sociale de l'alimentation. On n'est pas encore tout à fait au clair parce qu'on vient de se relancer, mais on pourra vous en parler plus longuement dans les mois prochains et on vous invitera et on s'espère vous voir pour développer ce concept et cette idée-là qui permettrait de répondre à beaucoup des questions et des problèmes que l'agriculture et les agriculteurs ont.
Je crois que la sécurité sociale, elle existe déjà. Ça s'appelle les restos. Ouais, ça s'appelle les restos du cœur. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé faire les restos du cœur. Pourquoi ? Pour garder justement ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter à bouffer. Et les centrales d'achat et tout, ils font exactement ça. Ils se servent de ça pour... Oui, mais en fait, non, mais je sais bien que ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, ils y ont déjà pensé, nos penseurs. Et aujourd'hui, on parlait justement, il y a quand même 11 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est vrai que ceux-là, ils ont pas le choix. Moi, je vais encore dire un truc, mais bon, je l'ai vécu et je le vois comme ça. Moi, j'ai jamais réussi à être contre les grandes surfaces. Je vais donner un exemple. Quand j'étais enfant, nous, mon père était mineur, on avait un jardin, on mangeait les légumes du jardin, on mangeait les lapins élevés avec les légumes du jardin. C'était un vieux con, mon père, parce qu'à l'époque, l'ouvrier, fallait qu'il aille en HLM et qu'il prenne la caravane pour aller en vacances l'été. Lui, pendant ses congés payés, c'est son jardin. Et puis, on tue encore le cochon et tout ça. Et quand le premier supermarché, Mammouth, ça s'appelait à l'époque, Mammouth écrase les prix pour les plus vieux, s'il y en a encore, c'était la mentalité était déjà la même. Et ma mère m'y a emmené, j'étais tout gosse. Et qu'est-ce qu'on a, grâce à Mammouth, on pouvait manger du beefsteak. Parce que le beefsteak chez le boucher, il y avait deux bouchers dans la ville de Saint-Vallier, on n'y allait jamais. Quand vous avez un SMIC, quatre enfants, on mangeait ce qu'on pouvait. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que la réflexion est bonne, hein, qu'on arrive à construire quelque chose entre consommateurs et tout, pour que tout le monde mange à sa faim et un prix rémunérateur. La PAC, on en a parlé légèrement tout à l'heure, les aides PAC, moi, dans ma ferme, j'étais absolument pas financièrement, économiquement rentable. Parce que vu la production et tout ça, et c'est les aides PAC qui m'aidaient à tenir le coup et qui nous aident vivre. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Parce que voilà, le système était fait comme ça. Il était fait au départ pour que les agriculteurs aient un minimum de revenus et que le consommateur ait des prix bas. Sauf qu'entre les deux, on est bien d'accord, il y en a qui, à mon avis, se servent du système. Et il y en a autant dans le monde agricole, parce qu'on parlait des syndicats tout à l'heure, les dirigeants de la FNSEA, il y en a qui sont propriétaires des grands groupes d'huile, de viande et de machin comme ça. Et donc, eux, ils sont encore beaucoup plus forts que nous, parce qu'ils touchent les aides de la PAC, et en plus, ils touchent les aides de l'État, et en plus, ils ont le pouvoir. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir sûrement qu'on secoue le cocotier, mais là, il va falloir le secouer, je ne sais comment. Quoi. Mais...
C'est un prolongement. La sécurité sociale alimentaire, ça va supposer sur les années. En fait, le métier de l'agriculture, c'est un métier d'indépendant, normalement. C'est pas le fait d'être, vous l'avez dit, un souverain. Et donc, il y a beaucoup de réflexions sur des voies alternatives, mais qui posent quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est l'idée que si on veut se mettre d'accord à l'échelle d'un territoire sur quel type d'alimentation on veut et donc quel type d'agriculture on veut, de plus en plus, les citoyens pourraient de façon concertée, mais conventionnée, décider avec les agriculteurs de ce qu'on va cultiver, des volumes, de comment. Et donc, c'est perdre un peu aussi d'autonomie. Hein, ça serait plus l'agroalimentaire, ça serait peut-être pas la PAC qui pourrait dire voilà comment on oriente les systèmes, mais les citoyens à l'échelle locale. Et cette idée de même de conventionner les agriculteurs, exactement comme les singes sont conventionnés, enfin la sécu conventionne pour le remboursement, c'est ça la même idée, c'est ça qu'il y a derrière. Donc ça n'a rien à voir effectivement avec de l'aide alimentaire, la sécurité sociale alimentaire, c'est-à-dire une manière de se concerter politiquement, on ferait rentrer à la sécu les citoyens dans une plateforme pour l'alimentation des agriculteurs, et tout le monde discuterait. Ça, c'est un peu révolutionnaire, surtout par rapport à l'idée que l'agriculteur peut quand même mettre chez lui. Alors, il n'a pas forcément, maintenant on revient sur l'idée qu'il n'achète pas son foncier, mais certains, et surtout des NIMA, sont très attentifs et très soucieux d'avoir leur foncier. Donc, cette idée-là, on la conserve très fort, et quelque part, bon, avec on peut raisonner aussi sur la terre bien commun, l'alimentation, objectif commun, sociétal, et on met tout le monde autour de la table. Et si que les gens, on serait tous aussi indépendants, est-ce que vous accepteriez d'être conventionné?
Bah, j'ai envie de dire qu'on est déjà conventionné par la PAC, en fait. On est, comme vous, voilà, je veux dire, en fait, là.
Je parle avec mes étudiants là-dessus, c'était pas des agriculteurs, et il y en a qui disent, ah non, ça n'a jamais été, mais donc ils font le point de vue de l'agriculture, en donnant beaucoup d'arguments contre. Donc, j'aimerais que ça dépend, et pas comment bien sûr.
Le fait, comme vous dites, de perdre de l'indépendance, je crois qu'on est, on n'est pas indépendant aujourd'hui. Enfin, on a déjà un système très incitatif. Ou en fait nos productions, enfin en tout cas on est très orienté sur les productions en céréales, c'est très clair, on peut le voir au gré des couleurs dans les champs en fonction des années. Il y a une année ça va être avec l'année du colza, ça va être tout jaune, et puis l'année d'après, ça va être le tournesol, enfin, fonction des politiques et des cours, donc c'est très orienté et très opportuniste. Alors, oui. Alors, si c'était au nom d'une réflexion, oui, comme vous parlez d'alimentation, et moi je pense aussi en termes d'environnement, de préserver notre environnement, donc de parler de préservation de notre territoire, parce qu'on en est aussi habitant, et du coup de faire des productions. Après, je ne sais pas si ça suppose faire des changements de production et tout ça. Enfin, c'est un système qui paraît comme très... Ça peut être très complexe, enfin, je suppose, pour comprendre. Je ne sais pas ce que ça représenterait à l'échelle de ma ferme. J'ai du mal à voir les marges de manœuvre, mais en tout cas, pour participer au débat, à la réflexion. Oui.
C'est que même dans le conventionnement, c'est pas seulement quelque chose qui vous tombe dessus, c'est aussi vous qui viendrez défendre le système.
Moi aussi. Quand j'ai des questions.
Et surtout, c'est la sécurité sociale de l'alimentation comme liberté de choix pour le consommateur. Grosso modo, c'est pour faire cesser les prix, c'est donner 150 euros pour le capital, et donner 150 euros aux consommateurs pour un droit universel comme la santé, et permettre avec ces 150 euros, où est-ce qu'on les dirige? C'est tout, c'est ça l'idée, c'est comment on dirige ces 150 euros, à quelle destination? Est-ce que c'est pour acheter du Nutella ou est-ce que c'est pour acheter de la carotte bio? Pour faire, voilà. Et conventionnement, on dirige ces 150 euros. Et à partir de ce moment-là, ça pose un problème. Ça marche la neige, c'est difficile parce que vous le faites, si vous les faites, c'est des normes qui sont, dans la reprise sociétale, justement, les normes écologiques, les normes de changement du sol, les normes agricoles. C'est mal parce que j'ai pas bien préparé mon intervention.
C'est un
non-scrut. C'est pas moi quelque chose qui va vous tomber dessus et que vous devrez suivre. C'est quelque chose qui se négocie aussi bien en tant que producteur qu'en tant que consommateur. Et c'est pour arracher au système alimentaire tel qu'il est construit, aux industries agroalimentaires qui achètent 40 centimes le litre de lait, c'est qu'on arrête cette connerie-là, quoi. C'est pas possible. On parlait de tri, revient. À 40 centimes, ça marche pas, tu sais. Voilà, essayer de donner de la liberté. Et aussi, de la liberté par rapport aux réglages. On peut faire un failler et puis démerder avec, quand c'est le vendeur. Mais je suis 150 euros. Comment je les dépense? Et j'achète ce que j'ai en bon. Il faut avoir ça. C'est possible. Ouais,
non, mais en fait, il y a
l'argent. Donc, j'ai l'argent de l'argent. Mais en fait, sur le système, il y a l'argent. Excusez-moi, est-ce que vous voulez réagir? Parce que sinon, je pense qu'il y a des points qui vont être, pendant les prochains mois, je sais qu'il y a des réunions qui vont être, où je peux balancer ça, et que du coup, il y a peut-être d'autres noms pour parler de ça. C'est une discussion très intéressante. Je ne veux pas dire le contraire, mais c'est juste. Il y a d'autres choses qu'on peut discuter, donc voilà.
Moi, sur le principe, je trouve qu'il est super. C'est trop cool. Après, comme toute idée, il y a toujours des limites. C'est que, est-ce que finalement. Enfin, voilà. En gros, est-ce que nous, par exemple, en tant que petit maraîcher, on va pas être mis sur le même pied qu'un mec qui a 30 hectares et du coup, bah, la pomme de terre, on la prend au même prix, bon, voilà. Ça, c'est un risque. Après, en soi, c'est super. Et surtout, ce qui serait super intéressant, c'est que ce soit pas centralisé à Paris, mais discuter de l'enchaînement des temps, parce que ça n'a rien à voir. Si on peut justement discuter ensemble, et voilà, il y a aussi, si c'est 150 euros que tu es subventionné, mais que ce n'est pas comme dans la médecine où c'est un prix unique par intervention, donc bah, tu peux garder, parce que si on perd l'intérêt de la vente directe, on décide du prix de notre rémunération, ça c'est aussi un vrai truc. Il pourrait y avoir des prix maximum, des prix planqués, enfin voilà, il y a une grosse discussion. Et pour revenir sur le foncier, c'est vrai que c'était hyper important pour nous d'acheter ce terrain. Pourquoi? Alors, bon, bien, c'est vrai qu'on se dit, ouais, la terre, il y a tout le monde, tout ça. Dans les faits, on le louait à deux agriculteurs. Et en fait, ils nous disent que ça aille pas se faire. Il s'avère que c'était pas le cas, il était super, pas du tout dans le lieu, ni l'un ni l'autre, mais pourtant très bienveillant sur ce qu'on faisait. ils sont pas éternels, un jour ils ont des enfants. Si leurs enfants ils sont pas en accord avec ce que vous faites, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que si on se fait virer de notre terrain, pas d'autant qu'on avait porté des investissements, c'est pas eux qui l'avaient fait. Donc en fait, c'est pas si simple, quoi. Puis par exemple, il y a Darulien qui fait ça, qui achète des fermes, ou c'est des citoyens qui sont actionnaires et tout ça. Mais c'est vrai que posséder ces terres, quand il y en a pas beaucoup, ça amène une sécurité, là, on dit, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Mais en fait, nous, on fait ça, mais parce que ce qu'on veut, c'est faire les choses bien. Et après, du coup, le problème, c'est que ça revient à, est-ce que on veut tous aller dans la même direction, quoi. Mais oui, c'est intéressant, mais bon, faudrait pas non plus que ce soit la société civile qui impose un truc aux agriculteurs, parce qu'il y a quand même des problématiques, dont on n'avait pas conscience. Hein. Mais au début, on disait, ce sont des agriculteurs conventionnels,
tous les comptes, non, mais par raison, tu peux y aller.
Oui, en fait,
maintenant
qu'on les connaît, en fait,
ils sont pas tous,
non. Mais non, tout le monde est super. C'est comme dans le reste, en fait, il y a des gens super, il y a des gens, quoi. On n'a juste pas été. On a notre voisin, il nous dit tout le temps, moi je ferais pas comme ça. Mais bon, il est sympa quand même. Et ben voilà, bref, donc en fait, discuter, c'est vraiment bien.
Ben, pour en mettre une petite couche, je dirais. C'est vrai que tout ça, c'est très bien parce que ça part d'une idée qu'on peut tous se parler, tous s'écouter et arriver à trouver un compromis parce que c'est un compromis pour que chacun s'y retrouve. Et alors bon, je suis à la retraite, je suis vieux, je ne vais pas dire que j'ai raison, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt l'obligation de prendre un avis ou un autre. Et notre société libérale capitaliste, faut quand même l'appeler comme ça. Pour l'instant, elle n'a pas tellement envie d'aller dans ce sens-là. Donc, on peut la changer. Mais bon, si on n'est que nous ici, on va pas y aller. Mais ça fait, il faut bien démarrer un jour, il faut bien y aller. Mais ça, c'est vrai que l'idée n'est pas mauvaise. Je pense pas qu'on l'ait inventée. Elle existe sûrement avant nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis pour revenir aussi au cadre de la PAC, moi, j'ai toujours pris ça pour un cadre. Et à l'intérieur du cadre, on peut manœuvrer un petit peu d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que le verdissement des 15 dernières années, pour des secteurs comme le Morvan, elle était plutôt bénéfique. On n'a pas rattrapé les aides qu'avaient les céréaliers, mais il y a eu des aides spécifiques sur le verdissement, sur l'entretien des haies, le maintien des bosquets, tout un tas de choses qui rentraient dans nos surfaces et tout ça, c'était positif. Alors aujourd'hui, ce qui est doublement dangereux, c'est que voilà, avec ce qui a été demandé par la FNSEA, ben, c'est remettre complètement tout ça de l'autre côté, quoi. Puis pour reparler un petit peu du photovoltaïque aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un rendement financier de 3000 euros d'hectare pour un propriétaire, au lieu d'avoir 100 euros d'un fermier, qui paye pas toujours des fois, parce que les fermiers sont pas toujours certifiés non plus, mais enfin bon, c'est vrai qu'il y a un gros souci là-dessus. Et certains fermiers vont se servir de ça pour y aller. On avait quand même un problème que tout le monde connaît, il y a de l'amiante. Moi, j'ai acheté des bâtiments que je n'ai pas construits. Je les ai achetés derrière un agriculteur qui, en 1972 et 75, a construit deux bâtiments avec des toitures en amiante. Personne ne lui a dit que c'était dangereux ni rien. Il les a construits, ils sont très solides, ça c'est vrai, ils sont toujours là. Après, moi je les ai rachetés, personne ne m'a rien demandé. Pendant le cours de ma carrière, on m'a demandé de faire un diagnostic amiante. Les toitures sont reconnues amiantes. Je suis passé chez le notaire, on a vendu ça, les doigts dans le nez.
Ah oui?
Ah ben oui. Et le jeune les a récupérés, et aujourd'hui, on lui propose du photovoltaïque au sol, mais personne ne va lui dire, et surtout quand même l'État qui est quand même responsable de tout ça, devrait dire toutes ces toitures, parce qu'il y en a combien de milliers d'hectares, devraient être enlevées et des panneaux solaires à la place, ça serait d'une intelligence toute simple, mais qui devrait fonctionner, et ça ne marche pas. Alors les idées, il y a des tas de gens qui les ont, mais moi je suis un petit peu pessimiste, parce que ça bouge pas si vite.
Tu dis qu'il fallait être optimiste.
Oui, je le suis sur le métier, mais bon, ça dépend des moments, quoi. Je suis comme les autres.
Je crois que vous posez une question, madame, qui est très pertinente auprès des agriculteurs, parce que effectivement, il y a ce mythe de l'entrepreneur et qui doit être un petit peu mis en balance avec la situation classique, on va dire, d'une ferme. Alors, en Côte d'Or, hors viticulture, la taille d'une ferme, c'est entre 100 et 150 hectares. Et quand on a 150 hectares sur une ferme, on touche beaucoup de prix de bac. Et quand on met ça en relief, en fait, les agriculteurs qui touchent autant de bac sont quand même déjà un petit peu des fonctionnaires de l'Europe, alors même qu'ils se prétendent être des entrepreneurs, capitalistes, ils sont un petit peu. Donc bon, ils sont déjà un petit peu quand même pilotés par l'Europe, mais en tout cas, alors il y a une casquette de porte-parole de la CONF, et effectivement, la CONF fait partie de ces discussions-là depuis plusieurs années sur la construction de cette SSA. Et puisque vous nous avez posé, je vais répondre à titre personnel, moi j'y suis absolument favorable, à la condition qu'effectivement soient mises en place ces cellules d'échange pour que les infos soient dans un sens et dans l'autre. Et là, les gens se rendraient compte de ce qu'est la vie de paysan et de ce que gagnent les paysans rapportés au temps passé. Et peut-être qu'ils se rendraient compte que, effectivement, un kilo de tomate à 3,99 ou 4,99, sauf que pour la tomate qui a bondi et quelque chose comme ça, ça va, mais pour la tomate qui a du goût, c'est pas assez cher. Bon, voilà. Ces cellules d'échange, effectivement, elles sont importantes, surtout quand on parle d'un bien commun. Et voilà, il y a beaucoup de pans de notre vie qui pourraient être mis en débat comme ça. Et l'agriculture, évidemment, en fait partie. C'est
merci beaucoup. On va peut-être prendre le troisième question. Il est déjà 20h20, un petit peu comme ça. Du coup, là, on a parlé de mobilisation un petit peu. Et comment vous voyez la suite des mobilisations, que ce soit sur notre ferme aussi, enfin, comment vous pensez vivre et comment vous pouvez aussi répondre à des problématiques que vous avez. Et voilà aussi même la suite de la mobilisation syndicale
à titre personnel, ça sera compliqué pour moi, c'est pour moi de m'investir pour ces mobilisations-là. Je le ferai autant que je peux avec la casquette de porte-parole de la CONF, mais à l'échelle nationale en tout cas. Il est évident que la CONF reste très très mobilisée, surtout avec cette victoire qu'on a planchée. Il va falloir maintenant travailler sérieusement avec le gouvernement, parce que faut pas se faire avoir. Voilà, on a eu cette petite victoire, maintenant faut la consolider. Le combat est devant nous.
Quelques petites réflexions aussi de l'engagement syndical. C'est vrai que c'est un truc qui est compliqué aussi, ça. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des différences entre les syndicats, et c'est vrai que je pense que nous quatre, enfin plus moi maintenant, mais c'était comme ça il y a encore pas si longtemps, on est investi dans notre métier. Et les engagements syndicaux ou dans les manifs et tout, c'est du temps. Moi, je sais que, par exemple, les engagements syndicaux, quand arrivait le mois de janvier, c'était la période des vélages, puis en mars, les annulages, tout ça, c'était une période où là, le syndicat, je me disais, comptez plus sur moi, je peux plus. Et, comment je dirais, par rapport au syndicat majoritaire, on a un vrai déficit de ce côté-là, c'est-à-dire qu'eux, ils ont des animateurs, ils ont des gens, ils ont un pouvoir et des moyens financiers pour les services de remplacement et tout ça, et malheureusement, et ça, moi, je n'ai jamais voulu le faire non plus, il y en a qui deviennent des professionnels du syndicalisme. Alors que nous, en général, on est tous des agriculteurs ou agricultrices avant tout, et après, on essaye de défendre notre beefsteak, d'expliquer, parce que c'est vrai, souvent c'est ça, c'est pas de manifester pour manifester, c'est d'expliquer, de faire comprendre au reste de la société qui on est, déjà, parce que c'est vrai que les gens ne viennent pas forcément dans les fermes. C'est l'avantage de faire de la vente directe, c'est que vous avez les personnes à domicile, même si parfois, et ça, faut que j'en parle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement en tant qu'éleveur, si parfois il peut y avoir des discussions, par exemple autour du loup. Le retour du loup dans les fermes d'élevage aujourd'hui, c'est une question qui nous pose vraiment question. On va venir aujourd'hui, moi je vois le jeune qui a pris la ferme, il est en train de me dire qu'il va construire des clôtures autour de sa ferme, puisque c'est un îlot groupé, pour s'enfermer dedans. Alors je lui dis, il y a quelques années, on a mis les loups dans des parcs animaliers, on allait les voir, et maintenant ça sera les paysans, les éleveurs qu'on va venir voir dans des parcs, parce qu'ils vont s'enfermer. C'est quand même un vrai changement de société, et on voit, moi j'en discute avec des gars qui sont dans les AMAP, en vente directe, C'est un sujet qu'ils ont du mal parfois à aborder, pas facile de discuter avec les gens, parce que bon, l'image, elle est ce qu'elle est, bon, c'est vrai qu'on n'a pas cette chose. Et puis, un autre problème sur le foncier, on en a parlé, parce que donc moi aussi je suis militant à la conf, on en a parlé. Aujourd'hui, vous avez des industriels de tout niveau, de tout moyen, je vais dire, qui s'investissent dans la nature, dans l'environnement, et qui se mettent, quand ils ont des moyens, à acheter des fermes ou des terrains pour ne pas y mettre d'agriculteurs, parce qu'ils veulent enlever totalement l'activité humaine. Et ça, il va falloir que les jeunes d'aujourd'hui fassent attention à ce problème-là. Parce qu'on a parlé aussi de l'agrandissement tout à l'heure, la robotique. Si vous écoutez le gouvernement d'aujourd'hui, pour eux, des tracteurs autonomes qui n'auront plus de chauffeurs, il n'y aura même pas d'ouvriers. Il n'y aura même pas d'ouvriers dans ces tracteurs-là. Ils vont se guider tout seuls si on les écoute. Et ça, c'est vrai que nous, en tant qu'agriculteurs qui avons les mains dans la terre ou qui recevons des coups de pied des fois au vache, c'est vraiment un autre monde. Mais ce monde-là, il est en train de s'ouvrir pour la jeune génération. Et je ne sais pas comment on va l'arrêter, parce que bon, tous les téléphones portables, on en a tous. Et voilà, d'un côté, on en a toujours pareil. Il y a le bon côté des choses, mais il y a aussi tout ce problème qui va se créer. Et puis, je vais arrêter.
Au niveau des mobilisations, nous, déjà, on s'est dit qu'on allait adhérer à la cour.
C'est bien, bonne idée.
Merci. Parce que déjà, au niveau des horaires, on croit rien au syndicat.
C'est bien simple, c'est vrai pour les jeunes.
Alors, vous comprenez ou vous? Vous croyez que les GIA, c'est la DGA, hein, pendant.
Bon.
C'est parce que, en fait, pour ça, quand on s'installe en agriculture et qu'on a moins de 40 ans, on peut toucher de l'argent de l'État, ce que nous on a fait. Et en fait, ça s'appelle la DGA.
Mutation,
et le syndicat GIA, il joue un peu là-dessus, en faisant croire que c'est GIA, DGA. Et en plus, c'est eux qui animaient aussi le stage pour s'installer. Alors, il y a tout un flou et c'est un peu compliqué de comprendre, surtout que la France n'a pas de gros moyens. Donc, bref. Voilà. Et sinon, moi, je considère que déjà, d'être agriculteur, c'est du romantisme, en fait. Vu qu'on n'était pas du monde agricole. Voilà. Parce que nous, on a à peu près, bon, pour l'instant, on a autour de 50-60 personnes qui viennent toutes les semaines et ça fait autant de gens qui nous posent des questions sur, bah, sur ce qu'on fait, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils mangent, tout ça. Et puis, bah, on n'a pas trop le temps de faire plus, en fait. Voilà.
Alors, moi, pour la suite, ben, au niveau de la ferme, déjà continuer mon travail, c'est de réfléchir à comment vivre, que ce soit acceptable économiquement, socialement, que j'ai quand même aussi du temps pour faire d'autres choses, et puis continuer ces activités-là justement pour parler de notre métier. On a un magasin de producteurs où on a fait le choix d'être que des producteurs bio. Donc, c'est une idée aussi, on va dire. Et donc, c'est aussi un magasin de producteurs qui est en milieu rural. Donc, on va dire que c'est pas courant de faire le choix du bio en milieu rural, le fameux Châtillonnais, là, qu'il décrivait si bien. Et les gens sont là parce qu'ils n'ont pas pu bouger. Et donc faire ça, et puis ben, ça permet de créer du lien aussi entre nous, agriculteurs. Donc c'est le vendredi, donc quand on est permanent, c'est ben on voit nos clients, mais aussi on se voit entre agriculteurs et puis on essaye de réfléchir à l'avenir de ce magasin et aussi ben, du coup un peu à l'avenir de l'agriculture locale.
Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions?
Oui, franchement, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, la Confédération des arbres contre la FNSEA. Et donc, la question, c'est comment on fait bouger. Est-ce que vous êtes convaincus de continuer, mais est-ce qu'il y a des bases d'agence? Réfléchissez à des stratégies pour étendre les liens. Alors, c'est pas forcément du côté des agriculteurs, mais qui se posent la question. Et moi, j'entends des GIA qui se disent, mais il y a une plateforme pour penser une autre PAC.
Il y avait des GIA qui étaient unis, qui ont fait des causes communes, notamment dans le Jura, avec la cause. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on détricote et qu'on est reparti en arrière, c'est beaucoup plus tendu. Mais quand on enquête, je suis enseignante et je fais des enquêtes sur ceux-là, je me fais entendre les agriculteurs, GIA, qui ne pas forcément partagent certaines causes de la cause. Et il y a une analyse qui dit que le syndicat, il est aussi puissant parce qu'il a une offre de service à nous. C'est un peu plus elle a une offre de service, parce que les gens votent être question. C'est parce que les services associés, installation auprès de bancaire, tout passe par la question. Qu'est-ce qu'offre? Alors, moi, je suis pas d'accord avec des collègues qui considèrent que c'est un fait, acté, mais, et que y a ces causes perdues pour la cour. Je pense que la cour, elle pourrait offrir des services. Un autre, mais il faut qu'elle soit présente sur le terrain auprès des jeunes qui s'installent. Présente auprès des magasins de producteurs, parce qu'il y a ceci du consommateur. Je pense qu'il y a des marches d'amélioration, il y a des stratégies, notamment d'élargissement de la base. Comme vous êtes au moins deux, je suis un peu. Comment vous voyez les choses? Alliance possible avec les GIA, alliance avec les consommateurs. Il y a collectif nourrice qui vous permet de faire ça, parce que vous êtes dedans. Il y a déjà des bases de réflexion un peu plus collectives qui s'organisent. On n'est pas sur le monde agricole, on n'est pas avec les environnementalistes, on est avec tout le monde. Les environnementalistes, le monde agricole, les consommateurs et l'intermondialisme, puisqu'il est solidarité internationale. Donc il y a des choses qui commencent à exister, pour vous positionner, c'est quoi les priorités, parce que là maintenant c'est un peu urgent. Et pour le moment, c'est peut-être. Je suis désolée, mais je suis amie de la cour.
Vous dites, vous posez la question quand, avant que tu dises quelque chose, je suis amie de la cour. Mais je pense qu'il y a la raison. Il y a les élections au Chambre de l'agriculture, c'est un moyen de résonance aux entreprises. C'est effectivement le rôle du syndicat d'apporter un syndicat, c'est défendre les intérêts des gens qu'on représente, d'une manière indépendante, c'est pas peut-être la gestion des agriculteurs. On le sait, on a vu leur cinéma et leur rôle à double tête au niveau de l'Europe, utiliser la mobilisation des agriculteurs pour obtenir ce que le gouvernement voulait obtenir au niveau européen. Donc, il y a des élections européennes, il y a les élections de chambre d'agriculture, c'est un moyen d'une caisse de résonance immense. Il faut effectivement que la fédération s'en empare et qu'on travaille en commun. Bon, là, il y a bientôt des amis de la conf au début avril. Donc, il faut absolument travailler dans ce sens, et tous ensemble, et faire...
Alors, je suis content d'apprendre que les amis de la conf dans cette réunion. Il y a plusieurs réponses qui peuvent être apportées. Déjà, réponse contextuelle. Ne nous faisons pas d'illusions. Les GIA, dans ces quelques mois pré-élection, ne font pas beaucoup de pas de côté. Ceci étant, c'est une réflexion qui est toute récente, elle date de moins de 15 jours avec Thomas Maurice, haute co-porte-parole de la Confédération paysanne, et on a émis l'idée de prendre attache avec certaines personnes des GIA qui nous semblent fréquentables, on pourrait dire ça. Après, Potter contre Potter. Là, c'est pareil. On pourrait aussi parler de démocratie, parce que comment sont constituées les élections de la Chambre des députés. Ça, il faut en parler. Parce qu'en fait, la moitié des sièges en Chambre d'agriculture se gagnent dès lors que on est premier aux élections. Et les autres, l'autre moitié des sièges se gagnent, je crois, à la proportionnelle. Donc, en Côte d'Or, nous, on a 15 sièges. Là, on espère pouvoir en gagner 2, voire 3. Mais
la démocratie est pas du tout respectée, pas du tout représentative du paysage agricole. Et les finances, c'est pareil. Arnaud Rousseau, ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, est en train de prendre un décret pour saboter les finances de la CONF. Et on a fait le petit calcul, s'il passe ce décret-là, c'est presque 1 million d'euros en moins par an pour la CONF. Donc, vous vous rendez compte que, pour répondre à votre question de pourquoi la CONF n'est pas un syndicat de service, déjà il y a une question de moyens, mais peut-être encore en amont, c'est une question de principe, et on n'a jamais voulu être un syndicat statutaire. Donc les gens qui sont à la CONF ne sont pas des clients, ce sont des confédérés qui sont motivés par des convictions. Voilà. Je ne sais pas si ça va changer, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça.
Ah non, je parle un peu pour Daniel, puisque j'étais militant, puis je suis toujours militant à la Confédération Ouvrière Daniel. On a un ancien porte-parole, il n'est plus, mais enfin il est toujours motivé. Chaque fois qu'il y a des élections chambre, il veut gagner la chambre. À chaque fois, il se voit dans le fauteuil. Il est convaincu. Mais bon, pour l'instant, on n'y est encore pas arrivé. Mais on essaye à chaque fois. Après, bon, il y a le problème du temps qu'il faut, parce que l'exemple a été donné tout à l'heure. Les jeunes qui arrivent, ils se mettent au boulot, ils ont l'endettement qui leur fait peur, ils ont une adaptation, ils n'ont pas le temps d'aller voir les syndicats et ils vont de le comprendre. Nous, on s'en est rendu compte, on essaye justement d'aller les voir, parce qu'il y en a certains qui pourraient basculer, parce que c'est un petit peu ça. Ce qu'elle a dit est tout à fait vrai. Et qui c'est qui donne, on a l'impression que c'est pas eux, les GIA qui donnent la DGA. C'est pas la FNSEA qui la donne, c'est l'État. Mais ils donnent bien l'impression. La fameuse, comment on appelle ça, de toutes les aides agricoles, c'est vrai qu'à la FNSEA, le gros truc, c'est ça. Puis c'est ça. On est des chasseurs de primes. Moi, quand j'étais chez les GIA, ce qu'ils nous apprennent, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai été très surpris quand je suis passé à la Confédération paysanne. On parlait de quoi? On parlait de politique. On parlait de justement d'ambition pour l'agriculture. On parlait pas. Ah ben tiens, dis donc, tiens, il y a telle prime qui va arriver. C'est peut-être pas qu'ils pensent à faire ci, à faire ça, pour essayer de l'avoir, et patati patata. On n'a pas la même mentalité, ça c'est sûr. Au niveau des élections, on est motivé en tout cas dans la Nièvre, mais je pense que les autres départements aussi le sont pour essayer. Après, ça nous fait peur aussi un peu, parce qu'après, il faut des troupes. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent aller siéger. Nous, c'est Nevers, donc tout le Morvan, on en est de l'autre côté. Les jeunes, quand on prend le temps, on va les voir, on discute. Et il y a aussi, c'est vrai que c'est malheureux, dans ceux qui font de la vente directe, il y a un certain nombre de gens qui n'osent pas afficher le drapeau de la Confédération paysanne parce que ils ont l'impression qu'ils vont être un petit peu écartés. Et quand on se présente dans la chambre avec le drapeau de la FDSEA, tiens, voilà, comme quoi l'absus révélateur, quand on se présente avec le chapeau de la Confédération paysanne, on peut être un peu mis de côté. Mais croyez bien qu'on est motivé, en tout cas dans la Nièvre, et je pense que les autres départements aussi, pour essayer d'en gagner des chances. Après, on voit bien que politiquement, la FNSEA commence d'avoir la trouille, un petit peu. Les GIA, comme il a dit, tout de suite, ils vont les mettre sous tutelle, et ils sont déjà pas mal, mais même s'il y avait quelques esprits chagrins qui veulent un petit peu sortir du lot, ils vont bien les mettre dans le bon chemin. Mais ça, je le dis, les manifs et tout, elles sont parties d'une base logique, mais elles ont été récupérées par la politique. Mais alors là, c'était, pour moi, en tout cas, c'était flagrant. Donc voilà, on en est là. Mais n'ayez crainte, vous pouvez continuer d'être des amis de la conf et de nous soutenir, d'essayer de nous amener des moyens financiers, on va demander ça quand même, mais des gens aussi, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que... parce qu'on parlait tout à l'heure, c'est vrai que moi, longtemps, j'ai eu ce débat dans les commissions agricoles, qui sont quand même là où on produit ce qui va servir à l'alimentation. Il n'y avait que des agriculteurs. Il n'y avait jamais les gens de la société civile. Il y avait éventuellement quelques gens des DDT ou d'autres groupes comme ça qui font parfois des acheteurs pour les AMAP et compagnie. Mais c'est vrai qu'il y a eu un fossé trop long qu'on a entretenu, agriculteurs, hein, qui a été entretenu de séparer. Alors donc, je crois qu'il faut avoir confiance. On se bat pour ça, ça va peut-être pas... Mais à chaque fois, notre ancien porte-parole, il est persuadé d'être le prochain président de la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Donc on va lui souhaiter. Et puis s'il y en a qui sont de la Nièvre, vous pouvez voter contre. Et inciter les autres à voter pour ça aussi. Merci.
Et moi, on connaissait pas la CONF, on est allé à la GIL il y a un mois et demi. Et en fait,
En fait, je trouve que vous faites déjà beaucoup par rapport aux moyens, parce que votre fanfare de 20 musiciens est un budget plus élevé.
Ah ben,
c'est vrai. Et j'ai halluciné, je me suis dit, en fait, un tiers de salarié, c'est ça?
Enfin, nous, on en a 0 d'un coup,
c'est bon,
20%.
Nous, on en a pas 20% de salarié. Enfin, ouais. En fait, c'est pas possible de faire d'activité de service. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que, en fait, la plupart des gens qui sont adhérents à la conf, c'est qu'ils ont une meuf qui fait de l'agriculture. Ce ne sont pas adhérents. Et en fait, on s'organise tout seul. C'est-à-dire que on n'est pas dans une démarche où c'est l'agriculteur qui attend chez lui, que tout le monde décide pour lui. Par exemple, l'association dont je parlais tout à l'heure, c'est la FOG, donc c'est l'association pour la formation à la comptabilité et à la gestion. Et donc là, elle a été créée en Côte d'Or il y a un peu plus d'un an. Et c'est une association où on se réunit entre agriculteurs, donc on est déjà 35-40 fermes en Côte d'Or, et on a, là, il y en a tous qui arrivent le mois prochain. Et ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire notre comptable, de faire notre gestion, de faire notre déclaration PAC, de faire nos IAS fiscales, de faire, qu'est-ce qu'on fait dernièrement, on a fait un document unique, donc c'est tout un tas de trucs, des choses obligatoires à faire que la chambre fait payer, et que là, du coup, vu qu'on est adhérent, on fait gratuitement. On le fait en collectif, on n'est pas tout seul, et c'est trop bien parce qu'en fait, déjà, on n'est pas tout seul dans notre coin. On apprend, mais on ne nous dit pas « fais ça ». En fait, on nous dit « ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant, comment toi, dans ta ferme, ça se présente ». Et je pense que, du coup, c'est peut-être aussi... Enfin, moi, je connais pas trop le syndicalisme agricole, mais c'est pas ça que j'attends d'un syndicat à ce perso. C'est plus, justement, porter une nouvelle agriculture et de me représenter en tant qu'agricultrice, avoir des services. Bah, il y a la chambre qui fait des trucs. Et puis surtout, à la fois, on a des formations qui nous conviennent. Quoi. On demande notre avis, alors que les formations de la chambre... Il n'y a jamais rien qui a collé avec ce qu'on avait besoin de faire. Il y a le réseau bio aussi. Se retrouver entre agriculteurs, c'est plus important que... Enfin, je pense qu'il y a le technique, le politique. Et là, la conf n'a pas les moyens de faire du technique. Quoi. C'est plus porter un modèle. C'est pas faire une formation sur quel système pour aller. Quoi. Enfin, c'est pas le but. Quoi.
Il y a des interviews quand même.
Oui.
Ça, en Côte d'Or, il n'y a pas grand chose. En fait, les affaires, moi, ça fait partie des offres de service, c'est-à-dire au sens large. Ça ne dit pas quel genre de relation on a, prestative, un peu descendante, ou un peu plus dans l'accompagnement. Les affaires, elles se définissent toujours comme accompagnateurs.
Tout à fait.
Et donc, le terme est sans doute à bannir, mais l'idée, c'était de dire, est-ce que par exemple, les comptes sont très présentes? Pour les PAT. Dans les plans alimentaires territoriaux, où là, il y a des bases d'alliance possibles, des réflexions sur ce que faire à l'échelle d'un territoire, un petit territoire, en termes d'agriculture, d'alimentation. Voilà, c'est, est-ce que c'est des stratégies sur le PAT politiquement? On se positionne, mais finalement, c'est une manière d'offrir un accompagnement, un bon service, parce que, bien sûr, il y a des communautés. Je suis là. Mais l'idée, c'est est-ce que la conf est présente sur des enjeux savoir faire sa compta, comme vous dites, c'est hyper important. Donc, c'est pas rien d'avoir cette capacité. C'est comme l'atelier paysan, c'est pas rien de savoir réparer, construire ses outils, éventuellement réduire ses coûts. Donc, quel est le créneau sur lequel la conf pourrait se positionner un peu de façon originale? C'est pas ce qui est déjà pris, à mon avis, mais c'est se raccrocher sur des besoins aussi concrets que je pourrais avoir des agriculteurs, peut-être, je pense qu'il faut engager, ça va être raison un peu plus.
Il y a un truc qui n'est pas évident, c'est que, par exemple, le réseau bio se veut apolitique. Ils avaient interdit les drapeaux de la conf quand il y a eu une manifestation il n'y a pas très longtemps. La FOG aussi, on se veut apolitique parce que... Et voilà, et c'est là qu'il y a le problème, c'est de trouver comment faire pour... je ne sais pas comment on se positionne sur le sujet.
Le problème de participation, il est humain.
C'est notre plus gros problème, c'est ce qu'on vient de dire justement. C'est que chaque agriculteur essaye. Moi, je représente justement l'ADR de la Nièvre au niveau de la Confédération paysanne régionale. Mais c'est vrai, les formations, on en fait justement à la demande des adhérents. Participer dans les PAT, dans tout ça, il faut trouver des gens qui peuvent y aller. Moi, j'y suis allé, mais maintenant, je suis en dehors des clous. J'ai plus rien à proposer. Je suis plus directement concerné par la production, par tout ça. Et donc, voilà, les jeunes derrière moi, le jeune qui a repris la ferme, il est intéressé. Mais malheureusement, pour l'instant, ben, comme on vient de dire, il a le nez dans le guidon, il bosse, il essaye de s'en sortir avec tous les trucs, plus les aménagements, lui. Ça, c'est le gros problème, il est là, c'est humain. C'est qu'on n'est pas assez nombreux pour arriver à être représentatif dans toutes les... On essaye partout. On parle de l'ADR, justement. On a une animatrice régionale. Bon, il y a un ADA au niveau de la Haute-Saône qui marche déjà depuis longtemps, qui fonctionne très bien parce qu'il y a un animateur qui est là depuis je sais pas combien de temps. Notre gros problème souvent, enfin souvent, tout le temps, c'est les animateurs. Parce que nous, quand on est dans nos fermes, on prend notre boulot et puis on sort de la tête un petit peu toutes les autres choses. Et quand on veut repartir des réunions et tout, il faut qu'on se reprenne le truc. Et quand il y a un animateur ou une animatrice qui est là pour nous aider, nous on en a eu un dans la Nièvre qui était formidable et qui marchait bien. À la région, on en a une aussi qui est très bonne et heureusement, je la remercie à chaque fois que je peux. Parce que quand j'ai besoin, je l'appelle et tout. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est le problème humain. C'est pas qu'on manque d'envie, c'est pas qu'on... On sait, justement, on voit dans les endroits où il faudrait qu'on soit présent. Mais on le fait pas toujours, et ça, vous avez raison hein, de dire. Nous-mêmes, on en a conscience. Mais voilà, on fait avec nos moyens humains. Au niveau régional, maintenant que la grande région a été créée, quand il y a des réunions à Dole et tout ça, les gars de la Nièvre, c'est vrai que c'est compliqué. À l'inverse, le Doubs aussi. Géographiquement, il y a aussi ce problème.
Vas-y, si tu veux compléter aussi.
Oui, ce qui est, je connais pas les chiffres, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'amis, d'amis que de confédérés.
C'est possible.
C'est possible.
Même à Mayeux.
En Côte d'Or, la Conf, c'est entre 50 et 60 adhérents, voilà, un gros gap, il y a, dans les 5 dernières années. Après, j'ai eu cette réflexion-là il y a quelques temps, je me suis dit, mais en fait, les confédérés, on est con parce qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que comme on adhère à la conf pour un autre projet agricole, on fait autre chose que le modèle dominant sur nos fermes. Donc on valorise notre production nous-mêmes. Et quand on valorise nous-mêmes notre production, et ben c'est toute l'année, tout le temps. Et donc quand on est pris toute l'année, tout le temps sur notre ferme, pour faire de la viande d'agneau en direct, pour faire du pain, pour faire du fromage de brebis, quoi que le fromage de brebis, c'est une période plus courte, mais en tout cas, sur les commercialisations et les ventes directes, on est très pris tout le temps. Et donc, on n'a pas beaucoup de temps à allouer au syndicat, ce qui n'est pas le cas, je pense, quand on est céréalier. Quand on est en élevage circulant, même si l'élevage est quand même très important. Donc, je suis forcément ouvert à l'idée de faire des alliances, notamment sur les pâtes. Mais comme le Kiki, c'est un manque de bras. C'est pas le problème humain, mais c'est le manque de bras. Mais c'est pour ça qu'il faut installer... des paysans. Qu'est-ce qu'on veut de notre agriculture? Donc, plus on a de bras, plus on a potentiellement, s'ils sont à la conf, des moyens de faire valoir nos idées.
Pas encore pour l'instant.
Moi, je pense que quand vous serez à peu près moins de 1%, en fait, agriculteurs, à devoir nourrir 65% de personnes, parce qu'on est pas possible. Ça sera difficile, effectivement, de vous demander de tout faire, y compris faire des adhésions, des adhérents, en dehors de nos services. Et des services, quoi. Donc, je pense que par moi, une des priorités, un des enjeux essentiels, et ça, on a une fenêtre très courte, parce qu'il y a effectivement, d'ici 15 ans, même moins, 10 ans, 50% des agriculteurs qui n'ont pas fait en prêt. Ça veut dire que d'ici 10 ans, on a la moitié des fermes qui soit vont partir à l'investissement, alors ce ne sera pas 100%, hein, mais soit pour nous, effectivement, accueillir de nouveaux profils qui seront peut-être proche, voilà, les valeurs de la confédération paysanne, de faire dépendre de l'enjeu, d'accompagner cette transition au niveau des actifs agricoles, elle est vraiment reliée à beaucoup d'autres choses, quoi. Et si on rate ce coach, sinon, on va pas faire peut-être 40 ans, donc, on fait de nouveau cette même fenêtre. Bah, c'est ce que je voulais dire. Et puis après, la vie, certes, c'est pas un fin de pire service, mais n'empêche, moi, j'avais travaillé il y a quelques années sur les agriculteurs en difficulté. Et ben, les seuls qui allaient aider, les agriculteurs, en difficulté, c'était là. C'était pas la FNSEA. Donc ça, je pense que par contre, vous avez un point d'amélioration notable à faire, c'est sur la communication. Et là, je pense que la FNSEA, malheureusement, est bien meilleure là-dessus. Et non seulement, enfin, la plus de moyens, mais on va dire, sans ça, ce qui marque moi, c'est quand même, il y a quelques temps, je sais pas si vous vous rappelez, à Paris Machine, on était dans le même contexte. Colère, et puis ça commençait à partir sur la France, et hop, verrouillage, par, coup un discours sur soi-disant la ligne machine qui n'existe pas, qui a été fait par la Confédération, Et aujourd'hui, de nouveau colère, qui dit qu'il y a quand même à la fois la colère, mais il y a aussi plein de choses qui bougent, il y a plein de mouvements de qui vont dans le bon sens, et récupération effectivement politique par ce syndicat majoritaire qui tourne les dirigeants, on n'a pas intérêt à ce que ça change. Après, je ne sais pas si il y a tout le monde qui me manque le moral, mais je pense quand même qu'il y a une partie croissante de la société, qui n'est pas non plus complètement. Je pense que c'est un bon point de dire.
Il y a aussi un truc au niveau du syndicalisme du Pays-Bas, c'est comme vous avez dit, il y a aussi le territoire. Et c'est vrai que la ville était développée comme territoire où il y avait des rendements très faibles, où il y avait des positions bureaucratiques antiquées. Un problème dans l'Aveyron, dans la Creuse. Et c'est vrai que la France aussi s'est développée de ces départements-là, parce que c'était aussi que des petites fermes, en circuit de levage, en vente directe, et avec une philosophie de culture de production totalement différente de la Pénitionnaise ou de la Beauce parisienne. Voilà. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, la compte a été discutée. Alors, il y a eu aussi la problème du leadership. Vous voyez, on a eu un José Bobet qui était assez connu et qui a pris du bataille, hein, avec une termine OGM, et qui a réussi à faire la bonne com, justement, et à amener du monde au niveau de la France. Malheureusement, ce qu'on a, il y a aussi une ville, aussi une existence, et depuis qu'il a quitté la France, malheureusement, il n'a pas réussi à trouver le bon dauphin pour continuer de se parler de José Bobet sur la France. Et la France a vraiment pris une grosse claque sur la gueule, hein, entre parenthèses, au départ de ces nouvelles, dans toutes les régions, hein, et surtout dans des régions comme les nôtres, où il n'y avait pas beaucoup d'adhérents de la paysanne et de moyens pour la paysanne. Et comme je pense aussi, comme dit ma voisine, je connais bien, là, il y a tout à prendre, là, avec les changements de génération paysanne. C'est d'ailleurs comme pour la bio, hein, la bio aussi, c'est évoqué grâce à quoi, hein, grâce aux nouveaux paysans, hein, notamment, où la personne de la famille aussi, mon paysan, mais c'est ce qui va amener des nouveaux types, des nouveaux sens. Et il faut vous dire, je pense qu'il ne faut pas que le monde paysan compte sur les consommateurs pour les défendre. C'est à eux de les prendre en première priorité. Après, ils peuvent bénéficier, évidemment, du soutien financier ou du soutien des consommateurs, mais c'est quand même eux les principaux intéressés du problème à défendre le droit, hein, comme fait les Vénézuéliens. Moi, j'ai fait des manifs un peu Vénézuéliens quand j'étais plus jeune paysan. Les mecs, quand ils y vont, quoi. Ils mettent les gens, ils mettent derrière, hein. Et puis derrière, on les fait. C'est la compte, c'est quand même beaucoup moins évident, quoi. Voilà, je m'arrête là, c'est
bon. J'avais une autre intervention, alors, ouais.
Vraiment, le problème, pour moi, il est profondément politique, parce que, quand tu dis, c'est pas les consommateurs, mais, enfin, dans une société, dans un système, néolibéral, où les inégalités augmentent de plus en plus, et où ceux qui sont responsables et acteurs d'un système néolibéral en ont vraiment rien à foutre, que la majorité du peuple mange de la merde,
et soit malade à cause d'une nourriture de merde, elle respire de la merde, tant que ça, ça ne se changera pas. Je veux dire, la plupart des, enfin, la grosse partie de la population, elle n'a pas les moyens de manger, d'aller acheter de la nourriture saine, qu'elle soit bio ou pas d'ailleurs, parce que déjà de privilégier les achats locaux plutôt que les achats dans les grandes surfaces, ça serait déjà soutenir des paysans locaux, des producteurs locaux. Mais le système, il est profondément politique. Tant qu'on est dans un système où il y a autant d'inégalités et autant de pensées qui n'arrêtent de croître, voilà, c'est, je veux dire, c'est pas, il y a plein de gens qui sont conscients que, y compris dans les banlieues, que il faudrait mieux pouvoir acheter des produits de qualité, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Et ça, c'est, enfin, c'est profondément politique. C'est vraiment sur des bases révolutionnaires qu'il faut agir.
Oui, on a que le café.
Je finirai sur ces mots-là, puisqu'il est déjà 20 ans, et je trouve que tout le monde commence à être un peu fatigué, qu'on va bien avancer, mais c'est
bon, après, je vais oui, je partage votre avis, et pour revenir sur l'exemple de l'agneau, les 7 euros de l'agneau néo-zélandais ne représentent, c'est pas le vrai coût, en fait. C'est pas le coût environnemental qui pèse à l'échelle mondiale, c'est pas le coût social, enfin, celui-là, c'est pas ce prix-là, tout comme, ben, moi, sur les 26 euros, on voit pas le service rendu à l'environnement, il est pas chiffré, ce service-là que j'ai rendu en préservant mes terres, en préservant l'eau.
Je sais pas si vous avez compris, enfin, il y a plein de gens qui sont étudiants, d'après ce que j'ai compris, en master d'agroécologie, il y a plein de gens qui veulent s'installer, bah, allez-y, en fait, parce que même si c'est la misère et qu'on galère, c'est un peu ce que vous
pouvez faire.
Et en fait, la limite, vaut mieux pas savoir à quel point je peux
s'installer. Ouais, c'est un peu.
Mais en fait, il faut le faire et en fait, comment faire, c'est ce qu'on dit, hein. C'est si tout le monde, tous les agriculteurs partent en retraite, faut les remplacer. Et si on veut faire un choix collectif, en fait, il faut si c'est les industries qui prennent le pouvoir, on n'aura plus jamais le choix. Alors que si c'est les individus qui sont pilotes de leur ferme, et ben on peut discuter ensemble. Et ça, c'est vraiment la clé. Et nous, c'est le choix qu'on a fait. C'est un peu fou, voilà. Mais il faut le faire. Donc et puis si vous avez des gens autour de qui veulent s'installer, il faut bah les courager, il faut les encourager. Voilà. Parce que ça c'est encore un problème après.
Voilà, je pense que du coup on s'arrêtait là, on aurait pu discuter, encore au plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais pardon, je voulais juste vous remercier tous les quatre beaucoup d'être venus, c'était vraiment super. Merci.
Merci, moi je vous remercie aussi à vous d'être restés et d'avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Voilà, j'espère que il y aura une révolution
en violence, si possible.
Parce qu'il y a une réflexion à l'âge prochain.
Et vous pouvez pas voter, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, malheureusement. Ben oui, on va aller voir quand on peut. On va aller voir.
Merci.
Merci. Je vous remercie.
Je pense que c'est peut-être une difficulté. Je pense que c'est peut-être une difficulté. Je pense
que c'est peut-être une difficulté. Voilà.
Peut-être qu'il y a des gens dans le moment et qu'il y a un vrai soutien.
C'est intéressant. Mais, on peut se présenter, non? On peut se présenter.
C'est pas. Non, mais